Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue sur BFM Business. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons passer deux heures ensemble, comme chaque soir, 20h, 22h. C'est Tech & Co. Tech & Co, le grand live du numérique. Vous le savez, on est là du lundi au jeudi, en direct à la radio, à la télé, les podcasts aussi qui vous attendent juste après la diffusion de cette émission. Avec au sommaire, en ce mardi soir, eh bien, on va imaginer peut-être le magasin de demain pour acheter son véhicule, et c'est Fiat qui se lance dans le métavers avec son showroom. On en parlera dans quelques instants avec un porte-parole de Fiat. On prépare les JO aussi grâce aux startups, des startups qui sont spécialisées dans les drones et les bateaux. On recevra l'une d'entre elles ce soir, Marine Tech. Et puis, que devient TomTom, l'un des rois du GPS, hein? Eh bien, TomTom est toujours là et on recevra sa cofondatrice tout à l'heure avec Étienne Braque. Voilà quelques-uns des sujets que nous évoquerons ce soir dans Tech & Co. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Et c'est parti donc pour vos deux heures de tech.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et l'actu tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Fred.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Et on te retrouve, Frédéric, journaliste à BFM Business et BFMTV.com. Ça y est, Google rentre dans la bataille de l'IA.
Exactement.
En tous les cas, se lance dans l'arène avec, eh bien, Bard. On en a déjà parlé ici, hein, c'est un peu le ChatGPT de Google. Eh bien, ça y est, petit à petit, Google ouvre les vannes pour qu'on puisse tester ce fameux Bard.
Oui, une arrivée un peu en catastrophe, c'était en février dernier. Alors, on le sait, dans la tech, les révolutions viennent souvent de l'extérieur. Ce ne sont pas les acteurs en place qui ont les innovations de rupture, ça vient de l'extérieur. Là, c'est venu de OpenAI avec ChatGPT. Eh bien, tout l'écosystème tech essaie de réagir. Et donc, Google, en février, a présenté Bard en disant, nous aussi, on a notre IA conversationnelle, on va pouvoir bientôt la lancer. Alors, rapidement, ils l'ont mis à la disposition de testeurs de confiance. Eh bien, ce mardi, il ouvre au très grand public, c'est-à-dire que on va pouvoir aller s'inscrire sur le site de Bard et on recevra une invitation. Donc voilà, une ouverture à un plus large public. Alors pour le moment, c'est circonscrit à un large public, mais aux États-Unis et au Royaume-Uni. Hein, on espère que dans les prochaines semaines, ça va arriver en France. Voilà, donc ce sont les directeurs de Google qui l'ont annoncé dans un message sur le blog. Donc les Américains et les Britanniques peuvent dès à présent tester Bard. Alors Bard, on le rappelle, hein, donc c'est la réponse de Google à ChatGPT. C'est basé sur un modèle de langage développé en interne qui s'appelle LLM. Comme ChatGPT, donc c'est nourri d'un certain nombre de données et ça progresse en fonction du niveau de conversation et du niveau de discussion que Bard pourra acquérir avec un grand nombre d'utilisateurs. Alors, Google a prévenu, un petit peu comme ChatGPT, qui est utilisable aujourd'hui sur Bing, qu'il y aura des garde-fous, que la longueur des échanges sera limitée. Le Bard en question pourra mettre fin à une discussion quand il considérera qu'elle va
un peu trop loin.
Voilà, que ça va trop loin, comme ce qui est le cas pour ChatGPT. ChatGPT, très souvent, il me coupe la parole.
Mais
bon, voilà,
on
a assez parlé, Frédéric. Oui. Maintenant, passons
à autre
chose. Exactement. Alors, on attend donc une ouverture à un plus large public. On attend aussi quel va être le modèle économique. Comment est-ce que Google, à la manière de Microsoft, qui a intégré ChatGPT dans Bing, est-ce que Google va l'intégrer à ses recherches? Quel sera le modèle économique de Bard? Voilà, il y a encore énormément de questions autour de Bard. En tout cas, Google accélère et ne veut pas resté sur le côté de cette nouvelle révolution d'Internet qui arrive et qui avance à pas de géant.
Voilà, espérons que ce Bard-là soit tout aussi sympathique que celui d'Astérix, Assurance Tourix.
Oh. Très bien.
Pour être celtique.
Exactement. Très bavard lui aussi.
Oui, très bavard. Bon, le problème c'est qu'il chantait très très mal aussi. Je ne sais pas si tu te souviens. Dans l'actualité, on reste dans l'IA avec cette question: comment réguler l'intelligence artificielle? La question revient en force en ce moment face au phénomène ChatGPT, bien sûr. Des députés français viennent par exemple de déposer le premier amendement rédigé par le chatbot pour alerter sur ces dangers. Mais c'est surtout à Bruxelles que le sujet monte. L'Europe espère être la première à encadrer ChatGPT. C'est pas une mince affaire. Écoutez et regardez le reportage de Simon Tenenbaum.
L'Europe ne part pas de zéro. La Commission a présenté il y a 2 ans un projet de règlement pour encadrer l'intelligence artificielle. L'idée étant d'interdire les applications les plus dangereuses, la surveillance, la manipulation, et d'imposer des règles de transparence et de contrôle pour les usages à risque dans l'éducation, les ressources humaines, la finance ou la santé. Mais l'irruption de ChatGPT oblige l'Europe à revoir sa copie. Le Parlement de Strasbourg est en pleine discussion pour intégrer à la régulation ces IA à usage général qui ont comme spécificité de pouvoir être utilisé par de multiples acteurs et pour une variété d'usages. Qui doit être encadré? Qui est responsable? Celui qui met à disposition l'IA ou celui qui s'en sert pour développer une application potentiellement à risque? Les GAFA, Microsoft en tête, déploient d'intenses efforts de lobbying pour que leur chatbot soit maintenu à l'écart de la régulation. Washington est dans ce dossier derrière ses champions de la tech, tandis que la France plaide, elle, pour un encadrement strict de ChatGPT. Bruxelles espère parvenir à un compromis avant la fin de l'année.
Voilà, reportage signé Simon Tenenbaum, sujet capital, Frédéric, qui va ouvrir pas mal de portes.
Oui, et en France, il y a une initiative assez intéressante, révélée par la lettre A. Ce sont des députés qui ont demandé à ChatGPT de rédiger un amendement à un projet de loi. Alors, c'est assez cocasse, puisque finalement, veulent utiliser l'intelligence artificielle pour pointer les menaces potentielles de l'intelligence artificielle. Le projet de loi en question, c'est le projet de sécurité concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce projet de loi, il y a un article 7 qui fait polémique, qui concerne l'autorisation d'expérimenter des caméras augmentées qui se serviront de l'IA pour opérer notamment des flux de personnes. Eh bien, ces députés, cette vingtaine de députés, issus du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, le fameux mouvement LIO, ces députés donc ont demandé à ChatGPT de rédiger cet amendement pour mettre des garde-fous, des barrières. ChatGPT de lui-même a dit la mise en place de traitements algorithmiques doit être encadrée afin de préserver les droits et libertés fondamentales des personnes concernées, notamment en garantissant une prise de décision humaine à chaque étape du traitement. Alors ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit? Il dit méfiez-vous de moi, méfiez-vous de l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait du traitement humain derrière. Alors les députés ont quand même été interrogés, ChatGPT a été guidé par les députés pour qu'ils donnent cette réponse. Mais en tout cas, voilà, c'est une initiative assez intéressante qui montre que ces députés-là, en tout cas, et l'ensemble des législateurs commencent à vouloir légiférer pour encadrer cette intelligence artificielle conversationnelle.
En attendant, peut-être un jour, notre ChatGPT européen à nous, ça serait cool qu'on puisse même avoir un outil d'intelligence artificielle conversationnelle. Il y a des pistes, ça existe, mais est-ce que c'est au niveau de ChatGPT? Il reste encore un petit peu à creuser, semble-t-il. Dans l'actualité aussi, Frédéric, c'est l'étau qui se resserre encore une fois, encore un tour de vis autour de TikTok.
Ça n'arrête pas. Tous les jours, on fait la chronique des États, des entreprises qui interdisent l'utilisation de TikTok. Donc, ce mardi, c'est la BBC, la chaîne américaine, le grand média britannique, qui interdit l'usage de TikTok à ses salariés, en tout cas sur leur téléphone professionnel. Alors, c'est toujours la même chose. On est un peu dans une vague de mimétisme. Après, donc, le Royaume-Uni, l'État, après des agences gouvernementales aux États-Unis, la Commission européenne, des entreprises comme la BBC craignent l'ingérence de l'État chinois dans l'entreprise ByteDance. ByteDance est située en Chine, alors pas TikTok. TikTok, pour le moment, se défend de toute ingérence, d'être soumis à la loi chinoise concernant l'utilisation potentielle des données recueillies par TikTok. En tout cas, voilà, la BBC l'interdit. Dans le même temps, ce sont les Pays-Bas qui ont pris la même décision. Ils l'ont rendu public ce mardi. Les fonctionnaires néerlandais ne devront plus utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel. Donc voilà, on attend peut-être chaque jour de nouveaux pays qui bannissent TikTok des téléphones de leurs fonctionnaires. Pour le moment, aucun pays n'a interdit TikTok au grand public. On sait que les Joe Biden aux États-Unis le menacent, mais pour le moment, il n'a pas mis cette menace en pratique. Autre sujet TikTok, cette fois, nos regards se tournent vers l'Italie. Alors là, ça ne concerne pas les menaces de sécurité et d'espionnage, mais l'Italie, en tout cas le gendarme italien de la concurrence, a ouvert une enquête contre TikTok, la société européenne TikTok, qui a sa filiale en Irlande. Et l'Italie reproche à TikTok d'avoir laissé se développer un jeu, ces jeux viraux complètement stupides. En l'occurrence, c'est le jeu qui s'appelle La Cicatrice Française. Alors, il est devenu viral en France, mais aussi ça a pris en Italie. C'est un jeu très prisé apparemment par un certain nombre d'adolescents.
Et complètement une minorité, débile, bien sûr. Hein.
Mais qui prend très fort. Il s'agit apparemment de se mutiler,
oui, de se faire très mal à la joue. Très fort pour avoir une petite cicatrice.
Joue, pour avoir une cicatrice. Or, oui. Eh bien, ça contrevient évidemment aux règles de TikTok qui interdit les mutilations et menaces en tout genre corporelles. Donc voilà, on attend la suite de cette affaire-là pour savoir si TikTok interdira ces vidéos comme le réclame Italie.
Et dans l'actualité aussi, cette news assez insolite, Ferrari, le constructeur de véhicules de sport qui en vend des milliers chaque année, eh bien, a été victime d'une cyberattaque et certains noms de clients se retrouvent dans la nature.
Exactement, oui. Alors pour le moment, Ferrari assure qu'aucune de ces informations personnelles n'ont été mises sur Internet, mais c'est le risque. Ferrari est victime d'un rançongiciel, donc c'est un logiciel malveillant donc, qui va cibler des données pour les récupérer. Alors un certain nombre de données, des mails, des numéros de téléphone, potentiellement aussi des données bancaires. Pour le moment, donc Ferrari a refusé de payer, a porté plainte contre les auteurs de ce rançongiciel et assure que voilà, ces données n'ont pas fuité sur Internet. Ferrari donc a lancé immédiatement une enquête en coopération donc avec une société de cybersécurité. Donc si vous avez acheté une Ferrari récemment, méfiez-vous, vos données pourraient se retrouver sur Internet dans les jours qui viennent.
J'ai tapé ton nom, visiblement ton nom n'est pas sur le dark web.
Non, visiblement
Frédéric.
Pas, ça va.
Voilà, tu ne fais pas partie de ce fichier piraté de Ferrari, puisque, rappelons-le, tu en as plusieurs à ton domicile. Enfin, j'allais dire à tes domiciles.
Mes domiciles aussi.
Plus précisément. Merci beaucoup, Frédéric.
Merci à toi, François.
C'était l'actualité de ce mardi soir avec Frédéric Bianchi, journaliste donc à BFM Business. Et vous restez avec nous. On est là chaque soir, 20h, 22h, 2h de tech sur BFM Business. C'est exclusif et c'est Tech & Co. A tout de suite.
Tech & Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Dans un instant, on va s'intéresser à l'édition 2023 de Vivatech. C'est dans 3 mois, les amis. Ça va vite. On en parlera avec son directeur général. Mais auparavant, on va s'intéresser au monde de l'automobile qui embrasse les nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans une auto, vous avez presque plus d'électronique que de mécanique. Et demain, et peut-être même dès aujourd'hui, pour acheter votre voiture, eh bien, vous pourrez aller dans le métavers. En tous les cas, c'est ce que pense Fiat. Et Laurent Diotte est avec nous. Bonsoir, Laurent.
Oui. Bonsoir.
Directeur marketing et communication chez Fiat Abarth au niveau mondial. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Pour nous présenter en fait cette innovation. C'est vrai qu'aujourd'hui 99,9% des véhicules sont vendus dans les concessions. On rentre dans un magasin, on achète sa voiture, enfin on l'essaie, etc., etc. Est-ce que demain on essaiera sa voiture, en tout cas on la découvrira dans le métavers? C'est ce que vous imaginez en tout cas.
Exactement, mais enfin c'est déjà le cas aujourd'hui en France, puisqu'on a ouvert ça en France aujourd'hui, et puis on avait lancé quand même cette initiative déjà en Italie il y a quelques semaines. Donc c'est notre showroom qu'on utilise cet univers digital pour mieux expliquer nos produits, mieux expliquer aussi pourquoi c'est si simple de conduire une voiture électrique aussi. C'est un outil qui est pédagogique et c'est un outil qui est complémentaire finalement de la distribution
traditionnelle, on va dire. Parce que aujourd'hui, quand on voit certains sites de constructeurs, on est quasi dans le métavers. Il y a beaucoup de 3D, il y a des visites virtuelles. Ouais. On peut rentrer à l'intérieur des véhicules, découvrir les couleurs des véhicules, etc. Est-ce que c'est un peu ça, mais amélioré, que vous proposez? Racontez-nous. Je me connecte sur le site de Fiat. Je suis sur le Metaverse Store. Qu'est-ce qui se passe?
Alors en fait, c'est ce que vous disiez. C'est une réalité augmentée finalement. On va utiliser les technologies qui sont mises à notre disposition en créant un jumeau digital de notre voiture, à l'intérieur, à l'extérieur, même dans sa technologie. On va avoir une relation avec un product genius. Donc c'est une personne comme vous et moi, et on va avoir une visioconférence, et le product genius, comme pourrait le faire une marque connue de téléphone dans le retail, pourrait expliquer comment le
je ne vois pas du tout de quelle marque vous voulez parler.
Et donc on va pouvoir expliquer dans le digital, d'accord, avec ces outils-là, mais mieux expliquer finalement notre voiture. Parce que vous allez pouvoir me demander simplement, mais comment est-ce que je plug ma voiture? Où est-ce que je mets ma wallbox? Et où est-ce que je la charge? Et comment ça se passe après sur la gestion de ma batterie et de son autonomie? Et donc, on va avoir tous ces outils qui existent dans le digital et le Product Genius va pouvoir vous expliquer, vous accompagner dans la découverte de ce produit.
C'est une vision, on est d'accord. C'est une vidéo qui est préenregistrée, qui répond répond à mes questions, ou est-ce que je vais être vraiment en contact avec
Vous êtes en direct, donc il n'y a pas de pré-enregistrement, hein, c'est juste...
D'accord,
donc,
je prends rendez-vous, je me retrouve dans ce showroom virtuel,
exactement,
confortablement installé sur mon canapé ou au travail.
Vous êtes chez vous.
Voilà.
Exactement.
Et là, je vais pouvoir visiter la voiture et avoir un porte-parole de Fiat qui va nous aider à choisir.
Exactement, un expert.
Auquel je pourrais poser toutes les questions que je veux.
Exactement, c'est exactement l'objectif. Hein. On a, chez nous, les constructeurs automobiles, vous savez, on a énormément de transformations à faire. Il y en a deux qui sont extrêmement importantes. La première, c'est forcément la migration électrique. Et la deuxième, c'est aussi tous les changements dans le parcours d'achat, client, etc., avec une accélération après le Covid qui était très importante. Et alors, ce qui est intéressant avec les premiers résultats qu'on a, c'est qu'on s'aperçoit que les gens, en étant chez eux, comme vous le disiez tout à l'heure, sont finalement... peut-être plus relax, ils posent plus de questions. Comme ils apprennent des choses aussi, ils continuent de poser des questions et on a des entretiens qui durent finalement 40 minutes, alors qu'on pensait plutôt avoir des entretiens de 20 minutes. Mais parce qu'ils vont être curieux et on va apporter des réponses. Et donc,
est-ce que ça aussi augmente la transformation vers l'achat ?
Alors ça, c'est vrai. Oui, ça augmente la transformation vers l'achat. Une autre chose aussi qui est intéressante et qu'on observe, c'est que traditionnellement, quand on a un premier lead ou un premier contact client et jusqu'à la transformation, ça dure à peu près 3 mois. Et là, avec nos premières ventes qui ont été réalisées, on est plutôt dans une logique de 1 mois et demi, 2 mois. Donc en fait, je pense que les clients sont plus convaincus et donc ils vont plus vite dans leur décision d'achat.
Donc voilà, on peut visiter la voiture, changer la couleur, bien évidemment, poser ses questions en direct, rentrer dans le véhicule, etc., etc. Est-ce que je peux acheter ma voiture tout en étant sur mon canapé? Ou est-ce qu'il faut que j'aille quand même en concession?
Alors, vous pouvez découvrir la voiture, configurer la voiture, acheter la voiture en étant chez vous. Absolument.
Sans aller chez un concessionnaire?
Sans aller chez un concessionnaire. Absolument.
Mais les concessionnaires, ils sont contents de ça ou pas?
Oui, alors, les concessionnaires, ils sont contents à plusieurs égards.
Vous êtes
pourquoi
sûr?
Oui, mais je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que parfois... où les clients disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien essayer la voiture. »
Oui.
Donc après, le Product Genius, il va vous organiser un test drive chez le concessionnaire le plus proche du chef.
Ou là, je vais être obligé de me déplacer et aller chez un concessionnaire.
Si vous aviez envie d'essayer la voiture physiquement, oui, absolument. Donc ça leur fait des contacts qui sont des gens qui connaissent déjà très bien le véhicule parce qu'ils ont eu cet entretien au préalable. Et quand bien même un concessionnaire, même si nous on vend une voiture, le concessionnaire fera l'entretien de la voiture. Donc de toute manière, le concessionnaire, le réseau a un rôle, gardera ce rôle toujours. Et donc, c'est complémentaire, il n'y a pas de concurrence particulière.
Alors aujourd'hui, on peut donc tester virtuellement une Fiat 500 électrique,
c'est ça,
je crois. Et tout au long de l'année 2023, vous allez étendre ça à d'autres modèles?
Alors exactement, on va faire deux choses. On va étendre d'autres modèles, parce qu'on a bientôt on aura une Abarth électrique. Demain, on aura d'autres
véhicules. Oui, qui est la marque mythique sportive italienne, bien sûr.
Donc là, stay tuned. Et puis, on a d'autres produits qui vont arriver, qui seront annoncés dans le deuxième semestre 2023. Donc ça, c'est la partie produit. Et après, on étend ça aussi sur plusieurs marchés. Donc on a commencé par l'Italie, on fait la France aujourd'hui. Demain, ça sera l'Allemagne, puis l'Angleterre. Et après-demain, on fera les États-Unis.
Et est-ce que demain, on pourra acheter, à votre avis, cette voiture avec un masque de réalité virtuelle? Vous
alors,
y croyez
l'idée,
ou pas à
alors,
ça?
L'idée, c'était justement, on ne voulait pas faire ça parce qu'on voulait avoir quelque
chose d'extrêmement facile, d'accord,
abordable. Donc, on voulait.
Et vous y croyez, vous, à ça, ces nouveaux modes, ces nouveaux médias très immersifs?
Alors là, on a notre Fiat Metaverse Store, il est déjà très immersif, mais il est moins immersif que si vous aviez un masque. Mais le problème d'avoir ce type de technologie, de lunettes spéciales, d'abord, c'est quand même relativement onéreux.
Oui, ça demande quand même une certaine expertise.
Donc ça crée des barrières à l'entrée. Et nous, ce qu'on voulait, c'était justement de ne pas avoir de barrières.
Oui,
on voulait
de proposer tout ça.
Et Fiat, c'est une marque populaire. Donc on voulait vraiment une marque, on voulait... En fait, on a deux mantras. On s'appelle Take It Easy, and We Plug, We Play. Donc c'était quelque chose de simple et on voulait réinventer le parcours client grâce à ces technologies qui nous sont offertes aujourd'hui.
Voilà, avec l'ADN de cette Fiat 500 qui est très craquante.
C'est
Merci
ça.
Beaucoup Laurent.
Merci à vous.
Directeur marketing et communication monde de Fiat à Barth. Est-ce que vous serez à Vivatech? Forcément, vous allez y passer.
Ah mais certainement. Puis en plus, maintenant que je vous ai rencontré,
belle transition. Bah écoutez, vous avez au moins un visiteur. Je plaisante parce que vous en aurez beaucoup plus.
Be my guest.
François Bitouzé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Vivatech. Viva Technologies, On se prépare, l'édition 2023 sera du 14 au 17 juin. Je tiens à vous préciser d'ores et déjà que nous vous réservons un dispositif exceptionnel sur BFM Business. On sera sur place, on aura un plateau pour vous présenter toutes les innovations de VivaTech et notamment Tech & Co. Il sera. Avant de parler de cette édition 2023, François, petit retour sur l'édition 2022. Est-ce que vous êtes satisfait de VivaTech édition 2022 ? Est-ce que ça s'est bien passé ?
Écoutez, ça s'est bien passé. Ça a été le retour en grand de VivaTech. Parce qu'en 2020, Covid oblige, on n'a pas pu jouer. Oui. 2021, on a joué, mais avec une jauge très petit, puisqu'on était à 4000 personnes par jour.
Donc, il fallait les QR codes, etc.
pour rentrer. Ouais, on avait les cotons-tiges. Bon, voilà, ça nous semble.
Mais c'était l'un des tout premiers salons de l'après-Covid.
Effectivement. Et quelque part, on a un peu testé le retour à ces grands événements. Mais c'était pas VivaTech d'avant. Oui. Et l'année dernière, voilà, on a pu faire un beau VivaTech. Il y a eu 91 000 personnes, 2000 exposants. Et c'est vrai que tout le monde était tellement heureux de revenir à VivaTech, on s'est dit, voilà, il y a toujours cette appétence pour la tech, le digital et les startups. Et alors nous, je peux vous dire, ça nous a donné une énergie complètement folle pour préparer l'édition 2023 qui arrive là dans pile 3 mois.
Voilà, ça sera du 14 au 17 juin. Comment vous positionnez-vous par rapport aux autres salons mondiaux, le CES, le MWC, on sort du SXSW là au Texas. Quel est l'ADN, la particularité de VivaTech par rapport à tous ces salons ?
Alors nous, on est assez unique au monde et je pense que c'est ça qui fait le succès de VivaTech et ce qui fait qu'aujourd'hui on est le plus grand salon tech, digital et start-up en Europe. Ce qui est très particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont dédiés à un secteur. Donc le CES, c'est le consumer, le World Mobile, évidemment, c'est le mobile.
Smartphone, ouais.
Et nous, on est des généralistes, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la transformation digitale en grand avec une conviction, c'est que les start-up sont au cœur de l'ensemble de ce réacteur. Et donc du coup, si vous mettez de la tech en grand, des start-up et réunir tous les acteurs de l'écosystème pour faire du business, vous avez VivaTech et ce n'est qu'à Paris.
Voilà, avec les grands groupes qui sont présents, bien sûr, qui sont pour certains vos partenaires, et puis des start-up qui présentent leurs innovations. Quelles vont être, François Bitouzet, à votre avis, les tendances de cette édition 2023 ?
Alors, les tendances aujourd'hui, il y en a une qui est évidemment indépassable.
Je vois où vous voulez en venir.
Bon, vous avez vu venir, c'est l'intelligence artificielle.
Et oui, forcément.
Voilà. Où est-ce qu'on en est ? Il y a ce moment de sidération avec ChatGPT et tout ce qui est arrivé. On va vraiment faire le point, on va voir des start-up, on va voir des innovations, on va voir aussi les grands acteurs, donc Google, OpenAI, Microsoft, Alibaba,
ils seront tous là.
Meta, ils seront là et ils vont venir parler du sujet. Mm-hmm. On va enfin pouvoir avoir un vrai débat, une vraie discussion. Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi est-ce qu'on peut être inquiet ? Et quelle est finalement cette nouvelle techno ? Qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le corps ? Donc ça, c'est la première le premier sujet qu'on va traiter. On va avoir cette année une très grosse problématique autour de l'impact positif de la tech, avec deux sujets. Un qui est autour de la planète. Bon, vous avez vu le rapport du GIEC qui est tombé hier. Comment est-ce que la tech, le digital, on peut changer les choses ? Comment on peut lutter contre le réchauffement climatique, aider l'environnement ? Comment est-ce qu'on peut aussi faire des économies d'énergie ? Donc ça, c'est la première impact positif. Et le deuxième, c'est autour des communautés et de la société. On va travailler sur l'inclusion, la diversité. On va avoir pour la première fois un village Femtech. On est très très fiers de ça. Ça va être extrêmement intéressant. Et puis notre dernier sujet, et peut-être que ça va vous intéresser, on sera à un an des Jeux Olympiques, on sera à 100 jours de la Coupe du Monde de rugby. Eh bien, on va faire un gros focus sur le sport et la tech. Qu'est-ce qui est en train de changer ? Comment le sport se transforme lui aussi ?
C'est intéressant parce que quand on voit les thématiques, c'est vraiment lié à l'actualité. L'année dernière à VivaTech, on parlait d'IA, mais finalement pas tant que ça. C'était pas l'un des sujets qui était en vitrine. D'un coup, voilà, vous êtes obligé de pivoter. L'actualité, c'est l'IA. Tout le monde en parle. Il faut que ce soit au cœur de votre salon, quoi.
Exactement. Nous, à VivaTech, on donne un coup d'avance aux gens. Donc, on s'intéresse à ce qui fait la transformation du business, la transformation des habitudes. Et on va aller regarder ça vraiment avec les meilleurs acteurs, les meilleures startups, les meilleurs groupes et les meilleurs intervenants. C'est pour ça que VivaTech, c'est vraiment le rendez-vous. Dès qu'on fait partie de la communauté tech digital startup, on va à VivaTech et on est le bienvenu.
François, est-ce qu'on a déjà des noms de stars de la tech qui seront présents pour à Porte de Versailles, donc du 14 au 17 juin.
Alors vous savez que on égrène toujours un petit peu jusqu'à Vivatech. Oui, on a déjà des noms qui sont vraiment très 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 intéressants. On va avoir par exemple, on va avoir le CTO d'Amazon qui va nous raconter vraiment comment est-ce que Amazon fonctionne de l'intérieur. On va avoir le CEO de PayPal et je peux vous garantir qu'aujourd'hui sur toutes les questions évidemment de paiement mais de cybersécurité et des choses passionnantes
en termes de crypto raconter. Aussi j'imagine
sur la question des cryptos. On a Herman Narula, alors c'était intéressant que vous parliez du métaverse, qui va venir nous raconter justement, peut-être après des effets d'annonce, qu'est-ce qui est en train de vraiment de se passer dans ce...
C'est étonnant parce que c'est pas dans l'une de vos thématiques les plus fortes, le métaverse.
Non, mais en fait, Vivatech est vraiment très très large. Ouais, on va aussi parler cybersécurité.
Oui, puis c'est pas forcément le sujet, qui est...
Mais c'est très transverse et c'est intéressant, un an après, d'avoir aussi, la capacité de prendre du recul. Et puis après, on va voir des grands noms du monde...
Vous parliez d'OpenAI, par exemple. Est-ce que le patron d'OpenAI va venir ou, enfin, il y aura un porte-parole d'OpenAI?
Écoutez, il y aura quelqu'un d'OpenAI qui va venir...
L'invitation est lancée, en tout cas.
Exactement.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François Bitouzé, donc directeur général de Vivatech. Notez ces dates importantes, du 14 au 17 juin, toujours le dernier jour ouvert au public.
Exactement.
Ça bouge pas.
B2B et le dernier jour pour le grand public.
Ça, c'est cool. Encore une fois, je le répète, nous serons présents le plateau de BFM Business et de Tech & Co. depuis ce grand salon de la tech européen, porte de Versailles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et vous restez avec nous, Tech & Co. revient dans quelques instants, 20h30, juste après l'info éco. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco, Aude Kersulec.
20h31, l'info éco, maintenant c'est avec, comme le monsieur l'a dit, très justement, Aude Kersulec. Bonsoir Aude.
Bonsoir. À la une, la contestation continue après l'adoption hier du projet de loi sur les retraites suite au rejet des deux motions de censure. Certains ports de Normandie sont bloqués par les grévistes. Le gouvernement a fait évacuer le site pétrolier de Donges et réquisitionné du personnel à la raffinerie de Fos-sur-Mer, ce qui a conduit à plusieurs incidents. Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision demain à 13h, mais ne devrait annoncer ni remaniement ni dissolution. Passage sans encombre pour le projet de loi sur la relance du nucléaire en première lecture à l'Assemblée nationale. Ce texte doit réduire les délais et les procédures pour la construction de 6 nouveaux réacteurs. Les députés ont en revanche dit non à la fusion des deux organismes de contrôle, l'Agence de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Aux États-Unis, alors que la réunion de politique monétaire a commencé aujourd'hui pour un rendu de décision demain soir, le secteur américain réuni aujourd'hui réaffirme sa solidité. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a fait savoir qu'elle était prête à étendre la garantie totale des dépôts à d'autres institutions financières dans le besoin. On l'écoute.
We announced a new facility to provide additional liquidity.
Nous annonçons une nouvelle facilité pour fournir des liquidités additionnelles au système bancaire. Le nouveau programme de facilité d'emprunt introduit par la Fed est prévu pour toutes les banques et leurs dépositaires qui en ont besoin. La situation se stabilise et le système bancaire américain demeure sain.
And the US banking system remains sound.
Suite de la visite de Xi Jinping en Russie, un accord a été signé pour la construction d'un gazoduc qui reliera la Sibérie au nord-ouest de la Chine. Moscou se dit également à soutenir l'installation d'entreprises chinoises en remplacement de sociétés occidentales ayant quitté le pays. La Commission européenne prête à céder sur l'interdiction de vente de voitures à véhicules à moteur thermique à partir de 2035 si celles-ci roulent avec des carburants de synthèse. C'est ce que révèle l'agence Reuters. La loi sur l'interdiction de véhicules thermiques avait été votée par le Parlement européen avant que Berlin ne fasse volte-face et demande la révision du texte. Et les passionnés de bateaux n'auront pas le droit à cette année au salon nautique à Paris. La filière veut faire une pause et se réinventer, mais donne rendez-vous en 2024 pour un nouvel événement. Les marchés financiers à présent, alors que les marchés américains évoluent dans le vert, le CAC gagne plus de 1,4% ce soir en clôture, 7112 points. Étienne Brack, bonsoir.
Bonsoir.
Du côté des valeurs, on apprenait aujourd'hui que Just Eat poursuivait son programme d'économie.
Oui, les suppressions de postes se suivent et se ressemblent dans la tech. Souvenez-vous, hier soir, on parlait d'Amazon. Eh bien, ce soir, c'est Just Eat qui annonce supprimer 1700 postes au Royaume-Uni, principalement des livreurs. Coup dur un petit peu quand même pour le secteur, car Just Justit a été pendant un temps considéré comme un exemple, car Justit, pour des raisons éthiques et sociales, ne voulait pas avoir recours à l'ubérisation et avait embauché massivement des CDI. Et là, ce soir, eh bien, ils nous disent qu'avec l'inflation, les commandes qui sont en baisse par rapport à il y a un an et surtout par rapport au confinement, eh bien, qu'il va retourner son modèle et va avoir recours à l'ubérisation, hein, donc tout simplement à des livreurs indépendants. Alors pour l'instant, ça concerne uniquement le Royaume-Uni. La France n'est pas concernée. À voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, sachant qu'on a quand même un secteur qui fait face à des ralentissements de commandes assez impressionnants, assez logiques, hein, avec l'inflation. On a des ménages qui font des choix et puis surtout qu'on avait une croissance qui était pharaonique avec les confinements.
Très bien. Est-ce que ça va vous empêcher de commander votre pizza chez Just Eat, mon cher Étienne ?
Vous voulez un secret ? Je n'ai jamais été client chez eux.
Eh bien, voilà. Écoutez, j'allais vous dire de la déguster, mais pas trop lentement, puisqu'on se retrouve tout à l'heure à 21h10.
C'est ça.
Avec un invité exceptionnel, puisque Corinne Vigreux sera à nos côtés sur le plateau de Tech & Co avec Étienne, qui est la cofondatrice de TomTom. Tiens, que devient TomTom, le roi du GPS des années 2000 ? Eh bien, TomTom, tiens bon, on en parlera tout à l'heure avec Étienne, donc, et notre invité. À tout à l'heure,
Étienne. À tout à l'heure.
Et bon appétit. Au suite. Tech & Co, la suite, tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Thierry Carlin est notre invité maintenant dans Tech & Co. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de MarineTech. MarineTech est une société fondée en 2014 qui est basée à Sifour-les-Plages. La vie est dure hein, quand même hein, Thierry, à Sifour-les-Plages dans le Var. Cela dit, vous avez une légitimité à être là-bas puisque en fait vous êtes une société qui fabrique des objets en environnement marin, des drones. Donc forcément il faut les tester on va dire à proximité. Est-ce que vous pouvez nous présenter MarineTech ? Est-ce que vous faites, s'il vous plaît, Thierry ?
Alors effectivement, MarineTech, c'est une société d'ingénierie. On est 8 personnes, à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an.
Oui.
Et on se développe sur des solutions assez innovantes, des solutions de surveillance. Surveillance du plan d'eau, mais pas que, parce qu'on est capable de regarder aussi sur l'axe des Z, donc dans l'air, à la surface. Et puis on développe des drones de nouvelle génération qui vont
en profondeur, c'est ça ?
En profondeur et même très profond, puisque on essaye d'adresser les enjeux de demain, mm-hmm. qui sont la surveillance des fonds marins, des grands fonds marins.
Ouais. On est notamment avec les câbles d'internet, des choses comme ça, c'est ça ?
Il y a beaucoup de choses au fond des océans. Il y a des câbles. Il peut y avoir aussi des accidents d'avion, aller chercher une boîte noire.
Bien sûr.
On maîtrise pas la profondeur.
Ah oui, vous êtes spécialisé aussi. Vous voulez vous intéresser à cette activité-là ?
On développe des solutions qui sont capables d'aller chercher en grande profondeur, puisque là, on est en train de mettre au point, avec l'aide de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, un drone de nouvelle génération qui sera capable de plonger jusqu'à 6000 mètres de fond.
Waouh, 6000 mètres. Ouais. Alors, vous avez été sélectionné par l'État et plus précisément par le ministère de l'Intérieur pour participer à des tests que vous avez fait l'année dernière, d'ailleurs, pour démontrer l'intérêt pour la gendarmerie maritime de l'utilisation de drones marins, sous-marins et même aériens, pour la protection des plans d'eau durant les futurs JO de 2024. On sait que beaucoup de choses vont se passer sur l'eau, notamment sur la Seine. Vous développez des solutions qui pourraient être utilisées par la gendarmerie l'année prochaine.
Alors exactement, et la gendarmerie fait bien les choses puisqu'elle anticipe différents types de menaces. Donc vous l'avez dit justement, il peut y avoir des menaces aériennes, des menaces en surface, un bateau qui pourrait essayer de pénétrer malencontreusement pour perturber des épreuves de voile. Il peut y avoir des menaces sous-marines, hein, des objets, des bombes posées au fond de l'eau. Donc la menace, il faut la voir en trois dimensions. Donc nous, on développe, on n'est pas seul, on travaille avec des universitaires et d'autres partenaires, on développe des solutions capables d'observer sur cet espace, à la fois aérien, surface et sous-marin, ce type de menace. Et la gendarmerie, justement, a défini un certain nombre de menaces, certains scénarios, et elle a demandé à un ensemble d'industriels, français notamment, de venir démontrer la pertinence de leurs solutions. Donc on a joué, là, l'été dernier, quelques scénarios sur le plan d'eau à Toulon.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur l'observation, mais vous faites plein de choses aussi passionnantes, comme par exemple ce système autonome qui permet de transformer naturellement tout type d'eau, y compris l'eau de mer, en eau pure, donc potable.
Tout à fait. Alors là, on n'est plus du tout dans les drones. Ça, c'est une autre
activité. Mais c'est aussi une autre activité que vous faites.
C'est une autre activité. Ça s'appelle Helio. On vient d'ailleurs de réaliser une très belle levée de fonds, là, récemment.
Ouais.
C'est un système qui est complètement autonome, comme vous le dites, qui permet de tirer profit de cette énergie considérable qui nous entoure, hein, qui est le soleil. Et on fait rentrer donc de l'eau de mer et tout type d'eau. Et puis, on va produire une eau d'excellente qualité.
Ouais.
Et on n'est pas impacté par le coût de l'énergie parce que...
Parce que c'est le photovoltaïque.
Encore gratuit.
Et voilà. Et il paraît que cette solution, alors pour désaliniser l'eau, c'est aujourd'hui c'est maîtrisé. Hein. Il y a plein de pays qui n'ont pas le choix et qui font ça, mais c'est très énergivore. Donc là, finalement, avec votre solution, c'est l'énergie solaire finalement qui va alimenter en électricité votre petite station d'épuration en quelque sorte.
Complètement. En fait, on a créé un système qui permet de recréer ce que fait la Terre depuis 4 milliards d'années. Vous savez, quand le soleil chauffe la mer, ça fait des nuages, on connaît le cycle de l'eau, ça on a fait le piège à nuages. Et on utilise uniquement l'énergie solaire et puis tout type d'eau. Et donc du coup, l'intérêt pour les populations qui manquent d'eau aujourd'hui, en tout cas d'eau potable, c'est d'utiliser ces énergies gratuites. La mer est abondante et on produit comme ça, par module, on arrive à produire suffisamment d'eau pour des familles qui en ont besoin.
Alors, vous êtes une entreprise visiblement très B2B, hein, finalement, mais est-ce que vous avez des solutions qui intéressent directement les passionnés de la mer, les particuliers, mais, ou pas?
Écoutez, j'allais dire oui. Malheureusement pour la planète, aujourd'hui, vous savez qu'on est, on est en stress hydrique dans le sud de la France.
Oui, tout à fait.
Il y a des villages aujourd'hui qui sont approvisionnés en eau par des camions-citernes, ce qui est inédit. Nous, notre système aujourd'hui, on l'a dévoilé, on a lancé une commercialisation là, dès le printemps, et il y a des particuliers donc qui s'équipent, même si au départ, il était destiné à des pays en stress hydrique, et malheureusement, on voit que la France, de plus en plus, avec ses étés de plus en plus chauds, ses printemps où il ne pleut pas assez... Eh ben,
oui, il va être obligé de puiser l'eau de mer pour fournir de l'eau en fait eh bien aux citoyens en quelque sorte.
Exactement. Ouais.
Eh bien merci beaucoup Thierry d'être passé par le plateau de Tech & Co. Vous êtes le PDG de MarineTech et on verra sans doute quelques-unes de vos innovations l'année prochaine durant les JO 2024. Merci beaucoup.
Merci.
Et vous restez avec nous, on revient dans un instant Tech & Co avec Sabrina Cagliosi dans quelques minutes depuis New York et puis on s'intéressera au monde montres connectées Garmin, qui sont des petits bijoux de technologie qui deviennent, on va dire, des compagnons indispensables pour les sportifs. Je reçois Frédéric Saint-Etienne, responsable de la communication de Garmin, dans une minute, parce que Garmin vient de sortir de nouveaux modèles qu'on va découvrir dans un instant. A tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique, avec François Sorel.
Voilà, on va parler maintenant d'un acteur important du GPS étonnant, parce que dans Tech & Co, ce soir, on en aura deux. Tout à l'heure, on va faire le point sur TomTom, puisque sa cofondatrice sera avec nous sur le plateau de Tech & Co. Mais auparavant, autre acteur important du GPS, c'est Garmin qui est avec nous. Frédéric Saint-Etienne, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable de la communication donc de Garmin. On va évoquer dans un instant vos nouveautés avec ces nouvelles montres connectées, qui sont bien plus que des montres GPS. Hein. Aujourd'hui, il y a des fonctions santé, enfin... Ça va bien plus loin, on va en parler dans un instant. Un mot quand même sur l'étendue des activités de Garmin qu'on connaît avec les montres, mais vous êtes aussi dans les avions, dans les bateaux. Garmin est un acteur important du GPS, de la localisation.
Oui, c'est même par là qu'on a débuté. En fait, on vient au départ de la navigation maritime, de l'aéronautique, par l'ouverture du signal GPS au grand public, puisqu'avant c'était une technologie militaire.
Tout à fait.
Et dans les années 80, en 1989, donc création de la société, et puis après développement des premiers GPS plutôt à usage justement professionnel, semi-professionnel, et puis après une démocratisation de la technologie sur du grand public, avec le marché auto, avec le sport.
On se souvient des GPS Garmin, hein. On parlait de TomTom, il y avait les GPS TomTom, mais aussi les GPS Garmin qu'on accrochait comme ça dans le véhicule. Bon, après le smartphone est arrivé et ce marché a disparu totalement. Aujourd'hui, vous êtes encore 50% de votre chiffre d'affaires, c'est, on va en parler, hein, les montres, mais le reste c'est le B2B.
Alors,
c'est ça?
Il y a une partie B2B parce qu'on, le marché auto n'est pas, a évolué en fait.
Oui,
C'est pas que le, c'est plutôt le GPS traditionnel avec les ventouses qu'on fixait sur le pare-brise là, du véhicule il y a les années 2000.
Quoi qu'on en voit encore parfois dans certaines voitures, c'est dingue.
Ça arrive, ouais. Et puis, mais du coup, il y a eu des accords qui ont été passés avec les constructeurs pour proposer cette technologie en intégration auprès de différents acteurs du marché. La même tendance sur le marché nautique, maritime, avec des accords qui peuvent être signés avec Beneteau Jano, par exemple, ou d'autres grandes marques avec lesquelles on travaille de manière très proche. Et puis, voilà, et après, il y a toute cette partie B2C, avec notamment les montres. La première montre de running Garmin qui date de 2003.
Waouh, 2003.
2003, c'est vraiment la première montre Garmin qui arrive aussi avec une rupture technologique qui est le GPS et qui va révolutionner, ce marché, parce qu'avec un GPS, on peut aussi partager sa trace sur les réseaux sociaux, on peut communiquer, on peut enregistrer plein de données qui sont associées, on va parler peut-être juste après.
Oui, bien sûr.
Mais c'est cette arrivée du GPS qui a contribué, du moins, à l'émancipation aussi du running en France et dans le monde.
Alors forcément, les évolutions technologiques font que vos montres sont de plus en plus perfectionnées, avec aussi une concurrence accrue et un nouvel entrant, oui. Apple, qui squatte ce marché de manière bien présente. Comment vous vous situez par rapport à ce concurrent? Quelles sont les spécificités des montres connectées Garmin?
Garmin, déjà, c'est un ADN sport. C'est-à-dire qu'on vient à l'origine du sport. On n'est pas un acteur de la téléphonie. On a une certaine légitimité puisqu'on a développé des produits pour la montagne, pour des pratiquants qui sont très exigeants, le triathlète, l'ultra runner, des pratiquants qui sont passionnés, qui sont prêts à investir dans un produit, mais qui sont exigeants et donc qui ont des besoins bien particuliers. Et il faut avoir cette capacité. D'où l'importance chez Garmin de toute la recherche et développement qui est extrêmement dynamique chez nous.
Importante, oui.
Et qui permet de créer toujours ce coup d'avance finalement par rapport à la concurrence et puis derrière qui permet de créer ce décalage en termes d'innovation, en termes de réponse aussi aux besoins de...
Alors c'est étonnant parce que justement la R&D, on le voit, en 2019 vous aviez lancé une montre qui était connectée à certains jeux vidéo. Il y a eu aussi en 2020 une montre avec un écran qui enfermait des panneaux photovoltaïques, ce qui fait que la montre pouvait un petit peu se recharger grâce à cette énergie solaire. Donc il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui on voit que ces montres, bien sûr, elles sont là pour améliorer la compétitivité des sportifs et monitorer en fait leur performance, mais il y a aussi toute des fonctions santé qui sont de plus en plus importantes, que vous intégrez aussi dans vos montres aujourd'hui.
Vous avez parlé de l'autonomie. Effectivement, l'autonomie, c'est un axe extrêmement important pour Garmin. Vous avez parlé de la technologie solaire. Il faut savoir que la technologie solaire, c'est une technologie qui a été développée en France à l'origine et qui a été rachetée par Garmin en 2019. Et qui a été ensuite déployé sur l'ensemble, enfin pas sur l'ensemble, mais sur certains produits de la marque, notamment des montres GPS et puis des compteurs vélo. Ce qui a permis de créer une véritable avancée, pareil en termes d'innovation, en termes d'expérience utilisateur, et qui a permis aussi de proposer des produits qui répondent aussi à de nouvelles évolutions de la pratique sportive sur l'ultra-endurance, sur du bikepacking ou du gravel pour tout ce qui est cyclisme. La technologie solaire a contribué aussi à augmenter cette autonomie. Et pour revenir sur les fonctions de santé, aujourd'hui il y a on va dire trois types de fonctions connectées qu'on va retrouver dans nos montres. Les fonctions de santé qui sont type nombre de pas,
rythme cardiaque, etc.
Rythme cardiaque, le stress,
les fonctions habituelles, on va dire.
Les fonctions habituelles pour monitorer son quotidien, on va dire. Et puis après, on a les notifications, donc c'est tout ce qui est notifications intelligentes, les alertes SMS très classiques, ce qu'on peut retrouver sur des montres connectées de toutes les marques. Et puis la force de Garmin, c'est de développer aussi plein de capteurs qui vont permettre d'enregistrer des datas très très précises, de plus en plus précises sur la performance sportive. Et là c'est vraiment la force de Garmin, c'est-à-dire de pouvoir enregistrer par exemple ce qu'on appelle les running dynamics chez nous. Les running dynamics, c'est un ensemble de datas qui sont enregistrées à la fois avec la montre, mais aussi avec le capteur de ceinture cardiaque, qui vont enregistrer la hauteur de la foulée, la longueur de la foulée, le temps de contact au sol, la fréquence de pas, etc. Et toutes ces données vont finalement permettre d'affiner un petit peu le potentiel ou le niveau de forme de santé du pratiquant, pour pouvoir ensuite lui proposer même des entraînements personnalisés, par exemple.
Bien sûr, c'est ça qui est...
Pour préparer son marathon de Paris, comme il y aura dans 15 jours.
Voilà, et là, donc, vous lancez la Forerunner 265 et la 965 aussi,
oui.
Avec des écrans AMOLED, etc., enfin... forcément plus technologique que les précédentes. Merci beaucoup Frédéric Saint-Etienne, responsable donc de la communication Garmin. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et tout de suite, nous allons à New York retrouver, comme chaque soir, Sabrina Cagliozzi, bien sûr, qui nous attend. Je la vois d'ores et déjà.
Tech & Co. What's up New York.
Salut Sabrina, ravi de te retrouver.
Et le François ?
Alors, Sabrina, dans l'actualité, on va parler encore de TikTok et toutes les interdictions, hein, l'étau qui se resserre concernant TikTok. Et le patron de TikTok, justement, a pris la parole sur TikTok, forcément. Logique.
Ouais. Ah bah oui, attends. À deux jours de l'audition du patron de TikTok, Xu Zhiqiu, devant la Chambre des représentants, et alors qu'un projet de loi est en discussion au Congrès pour donner davantage de pouvoir au gouvernement, en lui permettant notamment d'interdire ou d'exiger la cession de technologies jugées dangereuses pour la sécurité nationale, eh bien le patron de TikTok a décidé de s'adresser directement aux utilisateurs de TikTok dans une courte vidéo, bien sûr, sur l'application. Il annonce ainsi que TikTok a franchi la barre des 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis. C'est 50 millions, François, de plus qu'en 2020, la dernière fois que la société y avait communiqué ces chiffres. TikTok séduit désormais plus de la moitié des Américains de plus de 13 ans. C'est l'âge minimum pour s'inscrire sur le réseau social. Ça comprend aussi 5 millions de business qui utilisent l'application pour se connecter directement avec leurs clients, nous dit le patron de TikTok, qui annonce également avoir rien que 7000 employés basés aux États-Unis. Dans la vidéo, le patron de TikTok demande ainsi aux utilisateurs de l'aider, et de dire en commentaire pourquoi ils aiment et utilisent TikTok. Messages qui seront passés ensuite aux parlementaires américains. Rappelons que selon la presse américaine, l'administration Biden aurait demandé que le groupe chinois se sépare de TikTok après l'échec de négociations menées depuis un petit moment déjà, ça fait quand même 2 ans, sur des mesures permettant d'assurer la sécurité des données, faute de quoi l'application ne serait plus autorisée aux États-Unis. On notera que le groupe a publié donc cette vidéo, que sur le compte TikTok, elle a été publiée environ il y a 7 heures, François, elle a été vue par plus de 2,6 millions de personnes. Elle a reçu un peu plus de 307 000 likes et plus de 38 000 commentaires. Bon, ça fait pas beaucoup, puisque le compte de TikTok quand même est suivi par plus de 69 millions de personnes. Alors, je vous invite à aller lire ces commentaires. Déjà, on découvre le visage du patron de TikTok pour la première fois. Mais voilà, affaire à suivre, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de la semaine.
Voilà, on parle beaucoup de toute cette intelligence artificielle qui permet de faire des choses en matière d'infographie complètement hallucinantes, hein. Alors, il y a Midjourney, il y a DALL-E, etc. Et Adobe ne pouvait pas rester à côté de la route, hein, forcément, Sabrina. Et présente donc Firefly, la nouveauté d'Adobe.
Ouais, c'est une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle générative. Ce nouvel outil qui permet à l'éditeur, donc bien sûr, de se positionner, éditeur de logiciels, de se positionner dans la course à l'intelligence artificielle face à des acteurs comme WALL-E, vise à permettre aux créateurs, qu'ils soient d'ailleurs débutants ou confirmés, de pouvoir travailler plus efficacement, de réaliser des créations au plus près de leur imagination. C'est ce que nous dit Adobe. Le premier modèle utilisé par Firefly c'est générer des images à partir de requêtes, comme on l'a vu avec DALL-E, ainsi que des effets graphiques appliqués à du texte. Ce n'est toutefois qu'un début, puisqu'Adobe liste plusieurs autres titres de création qui renforceront plus tard les compétences de Firefly. Les modèles à venir sauront par exemple générer une image en 3D et proposer des variantes de sujets. Le contenu d'une vidéo pourra être modifié par quelques commandes de texte. Adobe souhaite aussi mettre à disposition des entreprises et aussi des créateurs une solution leur permettant de décliner un univers visuel riche et cohérent. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité, figure-toi, d'entraîner le modèle sur leur propre contenu, permettant ainsi de créer une infinité de déclinaisons à partir d'images d'un même style. Firefly est actuellement disponible en ligne en version bêta, ce qui va permettre bien sûr de tester, et Adobe pourra ensuite envisager des évolutions de son outil en fonction des retours. À terme, Firefly a vocation à être intégré aux applications, bien sûr, alors en priorité sur Photoshop, Illustrator ou encore Adobe Express. Donc, belle avancée là d'Adobe qui devait bien sûr aller se positionner sur ce segment.
Et voilà, pas de choix pour Adobe, il fallait réagir bien sûr. Merci beaucoup Sabrina, on va se retrouver dans quelques instants pour la clôture à Wall Street. Et vous restez avec nous, on va attaquer dans quelques instants notre deuxième partie de Tech & Co. avec au sommaire, eh bien, TomTom et sa cofondatrice qui sera avec nous sur le plateau avec Étienne Brack, Corinne Vigreux. On reviendra sur l'histoire de TomTom et ses projets. Et puis tout à l'heure, ce sera notre Zoom French Tech avec deux startups qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire voyager et qu'on vous fera découvrir tout à l'heure. Voilà, vous restez avec nous. Tech & Co revient juste après donc la clôture à Wall Street et Sabrina. Et puis ensuite, ce sera Frédéric Bianchi pour l'actualité de ce mardi soir. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Allez, la clôture à Wall Street, on retrouve Sabrina Cagliozzian ce mardi soir, il est 21h pile. Wall Street qui termine dans le vert, Sabrina, ce soir.
Eh oui, une belle séance, François, puisque l'on termine ce soir sur les trois indices américains, sur une hausse et même sur les plus hauts niveaux de la séance. Ça s'est accéléré en toute fin de séance, ce qui est en général assez positif. Des marchés qui attendent bien sûr l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine. Dans ce contexte bien particulier, le consensus est toujours sur une hausse de 25 points de base pour en ce qui concerne une hausse de taux d'intérêt. Alors que le marché a digéré les commentaires aujourd'hui du secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a indiqué que le gouvernement était prêt à garantir plus de dépôts pour essayer de rassurer sur l'état de santé sur ce secteur bancaire qui connaît beaucoup de problèmes depuis un petit moment maintenant, avec du coup un joli rallye sur le secteur bancaire, donc les banques régionales en tête et tout particulièrement First Republic qui inquiétait beaucoup. First Republic qui ce soir prend 30% à la clôture. PacWest, autre banque régionale, affiche une hausse de pratiquement 20%. Les grandes banques également. Belle hausse pour Goldman Sachs, plus 2,7%. Pour JP Morgan également, plus 2,7%. $130,59 dans un marché qui a digéré également une statistique concernant le marché immobilier. Les ventes de logements existants en hausse de pratiquement 15% sur le mois de février. Première hausse en un an et la plus forte progression depuis le mois de juillet 2020. Le marché donc grimpe, porté par les banques régionales et en attendant l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine. Le Dow Jones prend 1%, le S&P 500, figurez-vous, est en hausse et termine au-dessus des 4000 points, plus 1,3%, c'est important. Le Nasdaq, de son côté, plus 1,6%, à 11 860 points en clôture.
Merci beaucoup, Sabrina Cagliozzi. On se retrouve demain, évidemment, dans Tech & Co.
Tech & Co, le JT de la Tech.
Et l'actu tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Fred.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Et te retrouver Frédéric, journaliste à BFM Business et BFMTV.com. Google.com. Ça y est, Google rentre dans la bataille de l'IA.
Exactement.
En tous les cas, se lance dans l'arène avec, eh bien, Bard. On en a déjà parlé ici, hein, c'est un peu le ChatGPT de Google. Eh bien, ça y est, petit à petit, Google ouvre les vannes pour qu'on puisse tester ce fameux Bard.
Oui, une arrivée un peu en catastrophe, c'était en février dernier. Alors, on le sait, dans la tech, les révolutions viennent souvent de l'extérieur. Hein. Ce ne sont pas les acteurs en place qui ont les innovations de rupture, ça vient de l'extérieur. Là, c'est venu de OpenAI avec ChatGPT. Eh bien, tout l'écosystème tech essaie de réagir. Et donc, Google, en février, a présenté Bard en disant « Nous aussi, on a notre IA conversationnelle, on va pouvoir bientôt la lancer. » Alors, rapidement, ils l'ont mis à la disposition de testeurs de confiance. Eh bien, ce mardi, il ouvre au très grand public, c'est-à-dire que on va pouvoir aller s'inscrire sur le site de Bard et on recevra une invitation. Donc voilà, une ouverture à un plus large public. Alors, pour le moment, c'est circonscrit à un large public, mais aux États-Unis et au Royaume-Uni. Hein, on espère que dans les prochaines semaines, ça va arriver en France. Voilà, donc ce sont les directeurs de Google qui l'ont annoncé dans un message sur le blog. Donc, les Américains et les Britanniques peuvent, dès à présent, tester Bard. Alors, Bard, on le rappelle, hein, donc c'est la réponse de Google à ChatGPT. C'est basé sur un modèle de langage, hein, développé en interne qui s'appelle LLM, comme ChatGPT, donc c'est nourri de un certain nombre de données et ça progresse en fonction du niveau de conversation et du niveau de discussion que Bard pourra acquérir avec un grand nombre d'utilisateurs. Alors Google a prévenu, un petit peu comme ChatGPT là, qui est utilisable aujourd'hui sur Bing, qu'il y aura des garde-fous, que la longueur des échanges sera limitée. Le Bard en question pourra mettre fin à une discussion quand il considérera qu'elle va que ça va trop loin, comme ce qui est le cas pour ChatGPT. ChatGPT, très souvent il me coupe la parole.
On a assez parlé Frédéric.
Maintenant passons
va à travailler
autre chose. Exactement. Alors on attend donc une ouverture à un plus large public. On attend aussi quel va être le modèle économique. Comment est-ce que Google, à la manière de Microsoft qui a intégré ChatGPT dans Bing, est-ce que Google va l'intégrer à ses recherches? Quel sera le modèle économique de Bard? Voilà, il y a encore énormément de questions autour de Bard. En tout cas, Google accélère et ne veut pas resté sur le côté de cette nouvelle révolution d'Internet qui arrive et qui avance à pas de géant.
Voilà, espérons que ce Bard-là soit tout aussi sympathique que celui d'Astérix, hein, Assurance Tourix.
Oh. Très bien.
Poète celtique.
Exactement. Très bavard lui aussi.
Oui, très bavard. Bon, le problème c'est qu'il chantait très très mal aussi. Je sais pas si tu te souviens. Dans l'actualité, on reste dans l'IA avec cette question: comment réguler l'intelligence artificielle? La question revient en force en ce moment face au phénomène ChatGPT, bien sûr. Des députés français viennent par exemple de déposer le premier amendement rédigé par le chatbot pour alerter sur ces dangers. Mais c'est surtout à Bruxelles que le sujet monte. L'Europe espère être la première à encadrer ChatGPT. C'est pas une mince affaire. Écoutez et regardez le reportage de Simon Tenenbaum.
L'Europe ne part pas de zéro. La Commission a présenté il y a 2 ans un projet de règlement pour encadrer l'intelligence artificielle. L'idée étant d'interdire les applications les plus dangereuses, la surveillance, la manipulation, et d'imposer des règles de transparence et de contrôle pour les usages à risque, dans l'éducation, les ressources humaines, la finance ou la santé. Mais l'irruption de ChatGPT oblige l'Europe à revoir sa copie. Le Parlement de Strasbourg est en pleine discussion pour intégrer à la régulation ces IA à usage général qui ont comme spécificité de pouvoir être utilisé par de multiples acteurs et pour une variété d'usages. Qui doit être encadré? Qui est responsable? Celui qui met à disposition l'IA ou celui qui s'en sert pour développer une application potentiellement à risque? Les GAFA, Microsoft en tête, déploient d'intenses efforts de lobbying pour que leur chatbot soit maintenu à l'écart de la régulation. Washington est dans ce dossier derrière ces champions de la tech, tandis que la France plaide, elle, pour un encadrement strict de ChatGPT. Bruxelles espère parvenir à un compromis avant la fin de l'année.
Voilà, reportage signé Simon Tenenbaum, sujet capital, Frédéric, qui va ouvrir pas mal de portes.
Oui, et en France, il y a une initiative assez intéressante, hein, révélée par la lettre A. Ce sont des députés qui ont demandé à ChatGPT de rédiger un amendement à un projet de loi. Alors, c'est assez cocasse, puisque finalement, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour pointer les menaces potentielles de l'intelligence artificielle. Le projet de loi en question, c'est le projet de sécurité concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce projet de loi, il y a un article 7 qui fait polémique, qui concerne l'autorisation d'expérimenter des caméras augmentées qui se serviront de l'IA pour opérer notamment des flux de personnes. Eh bien, ces députés, cette vingtaine de députés, issus du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, le fameux mouvement LIO, eh bien, ces députés donc ont demandé à ChatGPT de rédiger cet amendement, eh bien, pour mettre des garde-fous, des barrières. Eh bien, ChatGPT de lui-même a dit la mise en place de traitements algorithmiques doit être encadrée afin de préserver les droits et libertés fondamentales des personnes concernées, notamment en garantissant une prise de décision humaine à chaque étape du traitement. Alors, ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit méfiez-vous de moi, méfiez-vous de l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait du traitement humain derrière. Alors, les députés ont quand même été interrogés, ChatGPT a été guidé par les députés pour qu'ils donnent cette réponse. Mais en tout cas, voilà, c'est une initiative assez intéressante qui montre que ces députés-là, en tout cas, et l'ensemble des législateurs commencent à vouloir légiférer pour encadrer cette intelligence artificielle conversationnelle.
En attendant, peut-être un jour, notre ChatGPT européen à nous, ça serait cool qu'on puisse quand même avoir un outil d'intelligence artificielle conversationnelle. Il y a des pistes, ça existe, mais est-ce que c'est au niveau de ChatGPT ? Il reste encore un petit peu à creuser, semble-t-il. Dans l'actualité aussi, Frédéric, c'est l'étau qui se resserre encore une fois, encore un tour de vis autour de TikTok.
Ça n'arrête pas, tous les jours, on fait la chronique des États, des entreprises qui interdisent l'utilisation de TikTok. Donc ce mardi, c'est la BBC, la chaîne américaine, le grand média britannique, qui interdit l'usage de TikTok à ses salariés, en tout cas sur leur téléphone professionnel. Alors c'est toujours la même chose, on est un peu dans une vague de mimétisme. Après donc le Royaume-Uni, l'État, après des agences gouvernementales aux États-Unis, la Commission européenne, et bien des entreprises comme la BBC, et bien craignent l'ingérence de l'État chinois dans l'entreprise Bydance est située en Chine. Alors pas TikTok. TikTok, pour le moment, se défend de toute ingérence, d'être soumis à la loi chinoise concernant l'utilisation potentielle des données recueillies par TikTok. En tout cas, voilà, la BBC l'interdit. Dans le même temps, ce sont les Pays-Bas qui ont pris la même décision. Ils l'ont rendu public ce mardi. Les fonctionnaires néerlandais ne devront plus utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel. Donc voilà, on attend peut-être chaque jour de nouveaux pays qui bannissent TikTok des téléphones de leurs fonctionnaires. Pour le moment, aucun pays n'a interdit TikTok au grand public. On sait que les Joe Biden aux États-Unis le menace, mais pour le moment, il n'a pas mis cette menace en pratique. Autre sujet TikTok, cette fois, nos regards se tournent vers l'Italie. Alors là, ça ne concerne pas les menaces de sécurité et d'espionnage, mais l'Italie, en tout cas le gendarme italien de la concurrence, a ouvert une enquête contre TikTok, la société européenne TikTok, qui a sa filiale en Irlande. Et l'Italie, reproche à TikTok d'avoir laissé se développer un jeu, ces jeux viraux complètement stupides. En l'occurrence, c'est le jeu qui s'appelle La cicatrice française. Et alors, il est devenu viral en France, mais aussi ça a pris en Italie. C'est un jeu très prisé apparemment par un certain nombre d'adolescents.
Et complètement débile, bien sûr.
Mais qui prend très fort. Il s'agit apparemment de se mutiler, pour avoir une cicatrice. Or, ça contrevient évidemment aux règles de TikTok qui interdit les mutilations et menaces en tout genre corporelles. Donc voilà, on attend la suite de cette affaire-là pour savoir si TikTok interdira ces vidéos comme le réclame l'Italie.
Et dans l'actualité aussi, cette news assez insolite. Ferrari, le constructeur de véhicules de sport qui en vend des milliers chaque année, a été victime d'une cyberattaque et certains noms de clients se retrouvent dans la nature.
Exactement, oui. Alors, pour le moment, Ferrari assure qu'aucune de ces informations personnelles n'ont été mises sur Internet, mais c'est le risque. Ferrari est victime d'un rançon logiciel, donc c'est un logiciel malveillant qui va cibler des données pour les récupérer. Alors, un certain nombre de données, des mails, des numéros de téléphone, potentiellement aussi des données bancaires. Pour le moment, donc Ferrari a refusé de payer, a porté plainte contre les auteurs de ce rançongiciel. et assure que voilà, ces données n'ont pas fuité sur Internet. Ferrari donc, a lancé immédiatement une enquête en coopération donc, avec une société de cybersécurité. Donc, si vous avez acheté une Ferrari récemment, méfiez-vous, vos données pourraient se retrouver sur Internet dans les jours qui viennent.
J'ai tapé ton nom, visiblement ton nom n'est pas sur le
Mon
dark
nom
web,
n'est visiblement
Frédéric.
Pas, ça va.
Voilà, tu ne fais pas partie de ce fichier piraté de Ferrari, puisque, rappelons-le, tu en as plusieurs hein, à ton domicile. Enfin, j'allais dire à tes domiciles.
Mes domiciles aussi.
Plus précisément. Merci beaucoup, Frédéric.
Merci à toi, François.
C'était l'actualité de ce mardi soir avec Frédéric Bianchi, journaliste donc à BFM Business. Et vous restez avec nous. On est là chaque soir, 20h, 22h, 2h de tech sur BFM Business. C'est exclusif et c'est Tech & Co. A tout de suite.
Tech & Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, Étienne Braque est de retour sur le plateau de Tech & Co. Rebonsoir, Étienne, journaliste à BFM Business, bien sûr. Et Étienne, tu es venu avec Corinne Vigreux, qui est avec nous aussi ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Bonsoir, Corinne.
Bonsoir.
Vous êtes la cofondatrice de TomTom. Et oui, la grande, le grand constructeur de GPS, le spécialiste du GPS depuis, oula, plus de 30 ans quand même, non?
La société a été créée il y a 30 ans, mais on a, comme les premiers GPS sont arrivés en 2004.
2004, et oui, puisque c'était aussi l'ouverture du GPS qui était une technologie très secrète, militaire américaine.
Exactement.
Hein, voilà, et puis petit à petit, elle s'est ouverte au grand public. Étienne, donc dans un instant, on va questionner Corinne, mais juste avant, peut-être un petit tour d'horizon des actus Tech Bourse de ces derniers jours.
Oui, ben on se voit toutes les semaines, donc je vous propose de faire une petite revue de presse, des informations.
Très bonne idée.
Qui nous ont peut-être loupé hein, avec toutes ces histoires de Crédit Suisse, d'UBS, avec notamment beaucoup d'actualités dans le secteur de la livraison à domicile. On en parlait tout à l'heure au Royaume-Uni, Just Eat qui va supprimer 1700 postes, hein, puisque c'était l'un des premiers acteurs à embaucher des livreurs en CDI. Aujourd'hui, ils font marche arrière dans une concurrence qui est bien sûr très forte avec Uber, mais pas seulement, baisse de la demande, avec un marché qui se normalise un petit peu. Donc par rapport à cela, on a un groupe qui va repasser à l'ubérisation au Royaume-Uni. À voir si ça sera le cas en France, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles à ce sujet. Secteur qui ralentit très clairement. Vous avez jeudi dernier Deliveroo qui a publié une perte de plus de 300 millions. Alors c'est moins qu'en 2021, mais pour 2023, on a un groupe qui ne s'attend pas à une année de folie, avec bien sûr une inflation de plus de 10% au Royaume-Uni. Il y a de moins en moins de commandes, enfin en tout cas une croissance qui sera moins forte cette année, plutôt flat par rapport à 2022 et 2021.
Voilà, notre invitée donc, Corinne Vigreux, cofondatrice de TomTom. Pour revenir sur cette belle boîte hein, qu'on a tous utilisée, alors à la fois sur notre smartphone, mais sur les petits terminaux qu'on accrochait à la voiture et qui nous ont permis de gagner du temps, de ne plus se perdre. Enfin voilà, vous êtes...
On a sauvé des mariages. C'est très important.
Mais bien sûr. Alors au début, vous avez sauvé des mariages parce que voilà, quand c'était dans des coins perdus, on retrouvait son chemin. Et puis après, petit à petit, vous avez intégré le radiotrafic, en quelque sorte.
Hein, on a créé l'information trafic.
Voilà, on se souvient de ce partenariat avec Vodafone qui était très innovant à l'époque. Hein, vous récupériez les données des téléphones portables et quand les téléphones étaient en fait dans des embouteillages, vous le détectiez et vous arriviez comme ça à savoir qu'il y avait des embouteillages sur le périph, sur les autoroutes, dans les rues, etc. etc. TomTom qui a énormément pivoté, en quelque sorte. On parle beaucoup du pivot dans les startups. Hein. Vous vendez encore des terminaux GPS?
Tout à fait, on en vend encore, mais c'est plus le gros de notre activité. Vous imaginez bien, effectivement, comme vous venez de le dire, les boîtiers GPS, c'était une vraie révolution. Les gens, d'un seul coup, pouvaient prendre leur voiture, n'avaient plus peur de se perdre. Enfin, il y avait vraiment une époque avant TomTom et après TomTom, et puis 2008, l'arrivée des téléphones portables et cette technologie en fait qu'on récupère sur un autre support. Mais ça ne veut pas dire que maintenant vous retrouvez TomTom en fait dans les sur téléphone, dans les voitures, dans les systèmes embarqués. Vous parliez de l'infotrafic, on a aujourd'hui 80% de l'infotrafic dans le monde automobile.
Il y a eu quand même un avant et après Waze, forcément, oui. Corinne, qui a été un game changer dans ce domaine. Waze vous a fait du mal?
Alors en fait, Waze a un business model qui est très différent du nôtre. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on a vu venir en fait, on connaissait bien le domaine de l'électronique grand public, on savait que ça n'allait pas durer toujours, et donc on s'était préparé à cette éventualité en rachetant ce cartographe Téléatlas. Il y avait deux cartographes, il y avait Navtech et Téléatlas. On rachète en 2008 Téléatlas. Et donc l'idée, c'était de se dire, cette cartographie qui est sans arrêt en train de changer, c'est compliqué la cartographie. Vous avez de la géométrie, vous avez les rues, les nouvelles routes, les nouveaux ponts, les nouveaux tunnels. Vous avez aussi les adresses, les points d'intérêt, vous avez le trafic, c'est quelque chose de très complexe.
Et aujourd'hui, c'est la cartographie du monde entier.
Exactement, en fait. Et on s'est dit, si on pouvait avoir cette cartographie en temps réel. Vous imaginez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on est capable de l'intégrer de façon digitale. Et en fait, c'est ce qui nous a motivés et ça a été notre étoile pour guider nos investissements. Et aujourd'hui, en fait, on fait de la cartographie en temps réel. Et voilà, et en fait, on n'est que quelques cartographes digitaux dans le monde avec une couverture globale. Et c'est aujourd'hui le gros de notre activité. TomTom, c'est toujours 5000 collaborateurs dans le monde. C'est 3000 ingénieurs qui travaillent pour faire en sorte que toutes les applications qui ont besoin de géolocalisation puissent utiliser des données les plus pertinentes et les plus précises possibles.
Voilà, et avec des acteurs prestigieux comme par exemple Apple, hein, puisque la cartographie d'Apple, c'est vous. A été fondée sur la vôtre. Alors petit à petit, Apple crée sa propre data de cartographie, hein, très belle d'ailleurs, mais vous avez
été au lancement. Microsoft, Uber, enfin on travaille avec beaucoup d'acteurs partout dans le monde. Et il y a 20% des requêtes sur Internet aujourd'hui ont un composant de géolocalisation.
Ouais, c'est clair.
Et donc, c'est un gros marché avec peu d'acteurs.
Etienne. Donc, si je vous suis bien, on utilise aujourd'hui TomTom, pas tous les jours ou presque, mais sans le savoir, à travers des applications, puis aussi à travers la cartographie qu'il y a directement dans les voitures, puisqu'aujourd'hui, toutes les voitures ou presque ont un GPS intégré.
Ouais. Oui, en fait, on a 600 millions de boîtiers quelque part dans le monde qui nous remontent de l'information. On traite plus de 5 milliards de données par jour. Pour vous donner une idée, on est capable pratiquement de refaire le monde pratiquement toutes les 24 heures avec les points de données qui sont anonymisés. C'est-à-dire que nous, notre business model n'est pas de savoir qui est qui origine ce point GPS sur cette carte, donc un business model différent. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est énormément de points pour essayer d'avoir cette cartographie la plus juste et la plus précise possible.
Avec un principal concurrent, il ne faut pas se voler la face, c'est Google.
Exactement.
Et Google Maps, qui en plus est plutôt un bon concurrent. Hein. Ce que fait Google est plutôt bon, avec évidemment un modèle économique qui est la publicité, hein, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais c'est comme ça. Et donc, fort de ce constat, vous avez cofondé cette fondation Overture Maps récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors... Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que ces données soient les plus précises possibles. Et donc, on a décidé avec Meta, donc Facebook, Microsoft et Amazon, de créer une fondation au sein de la Fondation Linux pour amener notre savoir-faire et nos données de façon la plus ouverte possible et avoir un standard. Parce que le problème, c'est que ce qui est important, c'est que toutes les innovateurs, les sociétés qui vont créer, qui vont utiliser cette cartographie digitale, a besoin de, c'est des investissements qui sont longs, veulent savoir qu'ils vont pouvoir travailler sur des modèles, sur des standards. Et donc, on travaille ensemble pour amener cette cartographie et ces points. Alors, certains des acteurs vont amener des points d'intérêt, des adresses, pour faire en sorte que cette cartographie, eh ben, elle soit la plus large possible, la plus précise possible, la plus à jour possible.
D'accord.
Et la plus standardisée, c'est-à-dire qu'elle ait accès, que tout le monde ait accès à cette cartographie et puisse la travailler.
Mais Corinne, à terme, ça veut dire que, en fait, vous voulez créer votre propre Google Maps. On aura une application qui réunira le meilleur de ce que vous faites avec Amazon, avec donc Microsoft et Meta.
Oui, en fait, vous aurez ce qu'on appelle des API et des SDK que les développeurs
et que les applications pourront
utiliser. Oui, oui.
Parce qu'aujourd'hui, la majorité prennent Google, c'est ça ?
Ou OpenStreetMap. On travaille aussi avec OpenStreetMap. Donc en fait l'idée c'est de travailler avec ces millions de cartographes partout dans le monde pour essayer d'amener cette donnée de base en fait la plus précise possible. Et ensuite on utilise nos outils pour faire en sorte que de traduire ces données de façon intelligible pour les différents besoins des utilisateurs. Parce que c'est vrai que ça a énormément évolué. À l'époque c'était de se déplacer de A vers B. Mais vous voyez bien que depuis 2008 le nombre de cas, livraison à domicile, l'e-commerce, même Tinder, même quand vous voulez trouver votre petit copain dans le café du coin, il faut savoir, on évolue tous sur une sorte de carte où on va tous de A vers B quelque part, soit dans une voiture, soit à pied, et donc cette donnée est très importante.
Ouais, ce qui pose parfois des problèmes de vie privée aussi.
Alors dans notre cas, non, parce que ces données sont anonymisées, donc ensuite c'est ce qu'on voudrait, c'est vraiment que les innovateurs de demain, toutes ces start-up, tous ces scale-up, toutes ces sociétés qui peuvent améliorer leur service client. Vous savez bien, vous avez tous pris une voiture que vous appelez données sur votre GPS, il faut qu'elles s'arrêtent exactement au bon endroit. On parlait, vous parliez de la livraison à domicile. Pour gagner du temps, pour que ces sociétés, leur coût opérationnel baisse, c'est important qu'elles puissent faire le plus de livraisons par heure, et pour ça, bah, qu'elles savent exactement à quel endroit du restaurant prendre la nourriture, et puis surtout qu'elle arrive chaude au moment où on veut la déguster. Donc en fait, on se rend pas compte, mais il y a énormément d'applications très importantes qui a besoin de cette cartographie précise. Et puis je parle pas de la voiture autonome, je parle pas de tous ces. On s'est aperçu que ces cartographies digitales, en fait, a eu énormément d'influence sur la sécurité. Et nous, un du gros dada, c'est quand même tout ce qu'on appelle le EDAS, en fait, toutes ces données qui aident à la conduite. Et ça, Advanced Automated Driving System. Et ça, ça aide les gens en voiture, c'est devenu obligatoire, pour les curvatures, pour savoir quels sont les dangers, etc. Oui, et en fait, aujourd'hui, on est leader, on grandit beaucoup plus vite que le marché sur ces données spécifiquement automobiles.
Et on en est qu'au début, hein, de la voiture autonome. Donc franchement là c'est un marché qui est en train de s'ouvrir.
Alors ce qui est intéressant sur la voiture autonome, parce que j'étais sur des plateaux il y a 10 ans, j'allais dire que dans 10 ans on allait être sur la voiture autonome, et en fait ce qui est intéressant, c'est que ces innovations amènent plus de sécurité sur la route, et ça c'est ce qu'il y a de plus important.
Ouais, c'est clair.
Vous l'avez dit, il y a 2-3 cartographes dans le monde, donc autant dire vous avez de l'or dans les mains à travers tous ces données hein, qui sont dans vos data centers, mais pas seulement. Aujourd'hui, comment on fait pour les commercialiser, et dans le sens où TomTom deviendra un jour rentable, je vous le souhaite.
On est rentable
en tout cas.
Déjà. Hein.
Mais quand je regarde l'année dernière, vous avez une perte. Enfin, après, c'est avec les investissements.
Oui, on a quand même 300 millions de cash. Donc,
voilà, il y a du cash, mais à court terme, là, tout ça, ça demande des investissements, etc. Et il faut pouvoir aujourd'hui créer de la valeur, en fait, avec toutes ces données. Comment ça va se dérouler dans les prochains trimestres?
Alors, on a eu notre meilleure année l'année dernière au niveau de carnet de commandes dans le domaine automobile. On a 2,4 milliards de carnet de commandes dans le domaine automobile. En fait, je crois que aujourd'hui, vous voyez dans la voiture, de plus en plus ces voitures, ce sont des ordinateurs sur roues, en fait. Hein. Donc, on travaille de plus en plus collaborativement avec l'industrie automobile et c'est vraiment plus en plus de la collaboration, puisqu'on a un grand savoir-faire logiciel, informatique, et c'est comme ça que la modélisation va se faire. C'est d'amener ce savoir que l'on a, cette expérience de nombreuses années sur l'utilisation de ce type de produit, et comme nous sommes une société néerlandaise et qu'un sou est un sou, nous avons une gestion économique très prudente, mais en même temps de gros investissements en R&D. L'autre pendant, c'est d'utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Donc on utilise les données, il y a toute une évolution technologique qui fait qu'on peut récupérer les données des sensors, des caméras, les analyser avec du computer vision à grande échelle, et d'avoir donc des produits très performants à grande échelle, et voilà, de travailler avec nos clients principaux pour aider à résoudre les problèmes des consommateurs.
Corinne, tous les soirs dans Tech & Co, on évoque ChatGPT.
Oui.
D'accord. Qui est en train de révolutionner plein de secteurs. Est-ce que c'est en train de révolutionner votre secteur aussi?
Oui, ça va beaucoup nous aider, parce que ça va nous permettre, notamment dans tout ce qui est search, qui est un de nos points où on investit beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de regarder sur les nouvelles technologies ChatGPT, justement, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cela pour automatiser de plus en plus ce qu'on fait. Je pense que ChatGPT est une vraie révolution, et donc ça va être intéressant, et pour nous, c'est plutôt une bonne chose.
Et ça va avoir un impact aussi dans le domaine de la cartographie.
Oui, en fait, il faut toujours avoir un coup d'avance. Quand on est une start-up en tech, il faut toujours anticiper et utiliser les technos. Donc, je pense qu'on est bien placé. On a une vision qu'on suit depuis des années, ce qui fait qu'on est toujours là et bien portant. Et voilà. Et avec ce rêve d'avoir cette cartographie en temps réel, et de créer ces cas qui vont permettre à tous les innovateurs de demain d'utiliser nos données.
Voilà le survivant du GPS, et qui a encore plein de cartes maîtresses là avec toutes ces technologies. Merci beaucoup, Corinne, d'être passée par le plateau.
Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir.
C'était un vrai plaisir de vous écouter, cofondatrice de TomTom et Étienne Braque, bien sûr, tous les soirs, mais aussi mardi prochain, donc, pour découvrir encore une autre pépite de la tech. Vous restez avec nous, bientôt 21h30, Aude Kersulec sera là pour l'Info Éco. Et puis, juste après, on va découvrir une start-up qui est spécialisée dans les drones, et ça sera notre plongée dans la French Tech, comme chaque mardi soir. Vous restez avec nous, bien sûr, à tout de suite.
BFM Business, L'info éco.
Voilà, 21h31 sur BFM Business. L'info éco, c'est avec Aude Kersulek. Bonsoir Aude.
Bonsoir. À la une, Emmanuel Macron devrait appeler demain à calmer les esprits. Il s'exprimera à 13h à la télévision et ne devrait annoncer ni remaniement ni dissolution. Aujourd'hui, plusieurs incidents ont éclaté après la réquisition de personnel à la raffinerie de Fos-sur-Mer ou l'évacuation du site pétrolier de Donges. Certains ports de Normandie sont aussi bloqués par les grévistes. Et le passage sans encombre pour le projet de loi sur la relance du nucléaire en première lecture à l'Assemblée nationale. Ce texte doit réduire les procédures et délais pour la construction de 6 nouveaux réacteurs. Les députés ont en revanche dit non à la fusion des deux organismes de contrôle, l'Agence de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce soir, la Cour des comptes appelle les acteurs du nucléaire à adapter les réacteurs au réchauffement climatique en appréhendant mieux le problème de l'eau nécessaire au circuit de refroidissement. Aux États-Unis, alors que la réunion de politique monétaire a commencé aujourd'hui pour un rendu de décision demain soir, le secteur bancaire réaffirme sa solidité et bénéficie de soutien. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a fait savoir qu'elle était prête à étendre la garantie totale des dépôts à d'autres institutions financières. On l'écoute.
We announced a new facility.
Nous annonçons une nouvelle facilité pour fournir des liquidités additionnelles au système bancaire. Le nouveau programme de facilité d'emprunt introduit par la Fed est prévu pour toutes les banques et leurs dépositaires qui en ont besoin. La situation se stabilise et le système bancaire américain demeure sain.
And the US banking system remains sound.
Suite de la visite de Xi Jinping en Russie, un accord a été signé pour la construction d'un gazoduc qui reliera la Sibérie au nord-ouest de la Chine. Moscou se dit également prêt à soutenir l'implantation d'entreprises chinoises en remplacement de sociétés occidentales ayant quitté le pays. La Commission européenne est prête à céder sur l'interdiction de vente de voitures à moteur thermique à partir de 2035 si celles-ci roulent avec des carburants de synthèse. C'est ce que révèle l'agence Reuters. La loi sur l'interdiction de véhicules thermiques avait été votée par le Parlement européen avant que Berlin ne fasse volte-face et demande la révision du texte. Dans la tech, les coupes continuent. Just Eat, la plateforme de livraison de repas britannique, va supprimer 1700 emplois, essentiellement des livreurs qui étaient salariés de l'entreprise, selon le modèle qu'avait choisi Just Eat. Just Eat qui a annoncé une perte nette de plus de 5 milliards d'euros en 2022. Et les passionnés de bateaux n'auront pas droit cette année à leur salon nautique à Paris. La filière veut faire une pause et prendre le temps de se réinventer, mais reviendra en 2024 pour un nouvel événement. Les marchés financiers à présent, journée verte et clôture verte également. À Wall Street, le Dow Jones gagne 1%, le S&P 500 plus 1,3% et le Nasdaq 1,6%. Le CAC lui gagne un peu plus tôt 1,4% à 7113 points.
Merci beaucoup Aude Kersulek. Il est 21h34 pile sur BFM Business dans Tech & Co. J'accueille maintenant Julie Rago. Bonsoir Julie.
Bonsoir François.
De la rédaction de Tech & Co. Et on va faire un détour du côté de la Russie, Julie. Avec toi, avec une décision du Kremlin qui interpelle. Écoutez bien, parce que c'est étonnant, l'entourage de Vladimir Poutine est désormais privé d'iPhone. Julie, pourquoi une telle décision ?
Bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Le gouvernement russe craint en effet les piratages provenant de l'Occident. La presse russe a en effet eu écho d'une réunion qui se serait déroulée début mars. Les employés des différents organes nationaux et régionaux du gouvernement russe ont ainsi été invités à se débarrasser de leur iPhone et de, je cite, soit le jeter, soit le donner à des enfants, soit. Certains fonctionnaires...
Quelle générosité !
Bah oui, c'est gentil, ils sont contents les enfants, ce sera Noël avant l'heure.
Mais évidemment.
Certains fonctionnaires ont d'abord contesté cette décision, mais pas de négociation possible pour Sergueï Kirienko, qui est le superviseur de la politique intérieure. D'ici le 1er avril, tous les employés devront avoir changé de téléphone. Le Kremlin pourrait acheter de nouveaux smartphones jugés plus sécurisés, notamment pour les employés qui seront impliqués dans la campagne présidentielle de 2024. Les employés devront dans tous les cas prendre au choix des smartphones sous Android ou bien des téléphones chinois, et cela ferait sens, notamment au vu de la bonne entente entre Vladimir Poutine et le président Xi Jinping. Le Kremlin aurait aussi pour but de devenir souverain en matière de technologie et de créer un environnement mobile un peu plus sécurisé. Pour cela, ils ont développé leur propre système d'exploitation. Ça s'appelle Aurora et le principe est simple. Vous pouvez lancer des applications Android, mais le tout est poussé par le gouvernement russe. Dans tous les cas, cela ne devrait pas toucher Vladimir Poutine lui-même. En 2018, il avait tout simplement annoncé qu'il n'avait pas de smartphone et qu'il n'utilisait que rarement Internet. Donc,
c'est étonnant ça quand même. Hein.
Et en 2005, il n'avait pas de téléphone tout court.
2005, pas de téléphone tout court. Et 2018, pas de smartphone.
Non, il est un peu en retard.
Sur il est un peu en retard. Ah oui, c'est pas Donald Trump. Hein.
Pour lui parler
Donald
du
Trump, c'est de l'autre côté.
Métaverse, intelligence artificielle, je pense qu'il connaît.
Oui, c'est clair. Peut-être qu'Internet, justement, lui donnerait une ouverture d'esprit qu'on pourrait apprécier. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Julie Rago, de la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, le retour de votre rendez-vous dédié à la tech. On va parler drone tout de suite avec mon invité.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Direction Aix-en-Provence, où est basé Patrolaire. Thierry de Boisvilliers, bonsoir. Vous êtes le cofondateur donc de Patrolaire. On va rentrer dans le détail dans cette société dans un instant, mais vous-même, vous êtes un spécialiste de tous ces sujets, puisque vous êtes un ancien salarié d'Airbus Hélicoptère. Vous avez travaillé sur une étude de l'OTAN, justement, portant sur la liaison entre les drones et les hélicoptères. Patrolaire, donc, basé à Aix, créé en 2020, parce que vous vous êtes rendu compte très vite qu'il y avait une explosion, en fait, des usages des drones, et qu'il fallait, eh bien, comme on a besoin de formateurs pour passer le permis de conduire en voiture, etc., il fallait apprendre à se servir des drones et à bien les piloter.
Absolument. Alors, en fait, ce qui était très important pour nous, c'était d'accompagner nos clients sur la structuration de leurs opérations. Donc le constat a été donc que les opérations n'étaient pas au niveau de sécurité et d'efficacité suffisant. Et on s'est dit qu'avec toute l'expérience qu'on avait acquise, moi et mon associé, dans l'aéronautique, pendant de nombreuses années, on allait utiliser toute cette connaissance et cette expérience pour l'apporter à ce monde du drone et aider nos clients à introduire cet outil dans leurs opérations, donc pour les rendre encore plus efficaces, encore plus sûres, avec des méthodes, des processus et une formation de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On le sait, dans l'aéronautique, la formation, c'est clé, c'est un élément clé.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des usages qu'on peut avoir avec ce type de drone aujourd'hui ?
Alors en fait, par exemple, le drone que vous voyez ici, c'est un drone qui est employé sur les stations de ski, donc pour de la recherche, sauvetage.
Donc après des avalanches, après des...
Exactement, donc ça permet très rapidement d'aller sur zone et d'inspecter l'avalanche, lever des...
Plus vite qu'un pisteur, par exemple ?
Beaucoup plus vite qu'un pisteur. Ça peut, voilà, vous pouvez projeter le drone à quelques kilomètres en quelques secondes.
Oui, c'est ça.
À peine une minute. Mm-hmm. Vous pouvez aussi, avec ce type de drone, inspecter des déclencheurs d'avalanche qui sont installés à très haute altitude. Donc, voilà, plutôt que d'employer des gens et de les exposer au risque de la montagne, là, vous pouvez utiliser un drone et en quelques minutes, vous avez votre information. Donc, ça, c'est par exemple ce type.
Donc, station de ski, la mairie de Nice aussi, je crois.
Alors, mairie de Nice, oui, utilise les drones pour de multiples opérations. On a aussi des opérations un peu exotiques, qui sont par exemple la calibration des systèmes d'atterrissage sur les pistes d'aviation. Donc, aujourd'hui, ça se fait avec des avions, très chers.
Disponible, plus lourd, bien sûr.
Exactement, plus lourd à mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous pouvez le faire avec un drone qui coûte vraiment pas cher, avec des systèmes simples. Donc, énormément de missions qui apparaissent. Et donc, ce potentiel économique du drone est en train d'être développé grâce à la réglementation qui se met en place. Cette réglementation doit assurer le développement économique de ces drones, mais aussi la sécurité. Aujourd'hui, cette réglementation européenne qui est en train de se mettre en place et qui sera effective en France complètement en 2024, nous sommes en période de transition actuellement, cette réglementation permettra de réaliser des missions à forte plus-value, Et aujourd'hui, tout le monde attend ça. Et tout le monde attend aussi une technologie qui soit encore plus fiable pour amener le drone au niveau de l'aviation, enfin de l'avion ou de l'hélicoptère.
Et ça passera par l'autonomie, à votre avis ? Il y aura toujours des pilotes de drones ? Parce qu'on on dit que ben voilà, hein, la prochaine étape, c'est l'autonomie, qu'on arrivera, grâce à tous les capteurs et aux données GPS, à faire voler un drone, à lui donner des tâches sans que finalement il n'y ait aucune interaction avec l'humain.
Alors, aujourd'hui, il y a des opérations qui sont automatiques, proches de l'autonomie.
Oui, parce que automatique, c'est pas autonomie. Exactement. Autonomie, il y a quand même une certaine, on va dire, possibilité de réagir dans une situation donnée.
Exactement.
Alors que l'automatisme, alors, bon, voilà.
Exactement. Alors, aujourd'hui, bon, c'est une question de terme, mais je vous donne un exemple. Il y a une société française, hein, Azure Drone, qui développe une boîte, hein, dans laquelle vous avez un drone qui est en alerte, et un opérateur situé sur le site ou quelque part en France, hein, derrière son écran, peut lancer la mission. Le drone, donc la boîte va s'ouvrir, le drone va décoller, va faire sa ronde. Donc c'est
et là, il n'est pas piloté, il le fait tout seul.
Exactement.
Il passe en mode pilotage automatique, en quelque sorte.
Exactement. Voilà. Ouais. Donc il va faire sa ronde tout seul. L'opérateur, lui, va uniquement regarder son écran et vérifier donc ce qui se passe.
Que tout va bien.
Voilà, que tout va bien. Et il n'a pas d'action sur le drone.
Oui, oui.
Le drone fait sa ronde.
Le drone fait sa ronde.
Se poser.
Et la boîte se referme.
Ça se referme, ça se connecte automatiquement, ça se recharge automatiquement. Enfin, c'est
incroyable.
C'est magique, quoi.
Ouais. Et c'est Azure Drone qui fait ça.
Azure Drone qui fait ça.
Une belle boîte française qu'on avait reçue d'ailleurs sur le plateau de Tech & Co. Quel est l'avenir, en fait, des drones aujourd'hui? Leur point faible, c'est quoi? C'est le fait qu'ils forcément ne soulèvent pas des masses importantes, qu'ils ont une autonomie aussi assez limitée.
Alors, pas vraiment. Aujourd'hui, le point faible du drone, c'est le fait qu'il n'est pas certifié, comme un avion et un hélicoptère. C'est-à-dire que aujourd'hui, un drone risque de tomber sur la population. Mmh. Donc c'est pour ça que les règles de survol de population est très strictes en ce qui concerne les drones. Et tout le monde attend le drone certifié. Lorsque le drone sera certifié, il pourra voler comme un avion ou un hélicoptère au-dessus de la ville, au-dessus de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le point faible du drone.
Et ça va arriver quand, cette certification ?
Écoutez, ça commence. Hein, dans le monde, il commence à y avoir quelques drones qui commencent à être certifiés, pas au niveau des avions ou des hélicoptères déjà, mais ça avance très vite et on pense que c'est quelque chose qui devrait arriver dans les années à venir.
On l'a évoqué avec aussi une autre start-up, les drones de livraison, hein, oui. Qui notamment livrent des on va dire du matériel médical, des médicaments aussi bien en France, mais aussi des expérimentations qui sont menées en Afrique. C'est aussi un business important, ça, les drones qui peuvent livrer des choses.
C'est un énorme business, en fait. Ce sont les.
Enfin, qui a été refroidi par Amazon, qui a abandonné son projet de livraison de colis. Hein. On voit que c'est quand même assez complexe aussi.
Alors, c'est complexe, mais c'est complexe à cause de cette certification.
Cette certification, d'accord.
Lorsque le drone aura une fiabilité proche de celle de l'avion ou de l'hélicoptère, à ce moment-là, il n'y aura plus aucun obstacle à ce que ces missions puissent se faire sans risque.
Et cette fiabilité, digne d'un hélicoptère ou d'un avion, on en est loin? Où on y est déjà, en fait. Enfin, après, tout dépend des modèles, bien évidemment,
oui,
et
bien
de la
sûr,
technologie.
En fait, il commence à y avoir des drones qui ont une certification.
Et une fiabilité.
Une fiabilité élevée, mais pas au niveau requis.
D'accord.
Pour survoler librement une ville ou la population.
Et en tant qu'un ancien Airbus, c'est un sujet qui doit vous tenir à cœur, bien évidemment. Hein. Merci beaucoup Thierry de Boisvilliers d'être passé par le plateau de Tech & Co. Voilà, rappelons que vous êtes donc le cofondateur de Patroller qui lance cette offre logicielle destinée à la gestion des drones. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. Ce sera pour terminer ce numéro de ce mardi soir, notre plongée dans la French Tech. On va parler de tourisme. Tiens, pourquoi ne pas aller en vacances en cette fin mars? Vous restez avec nous, à tout de suite.
Tech & Co. Plongée dans la French Tech.
Notre plongée dans la French Tech avec deux startups dédiées au tourisme qu'on accueille pour terminer ce Tech & Co. Jérôme Mercier est avec nous. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Président du groupe camping.com. Au moins, là, il n'y a pas de suspense. On sait de quoi on va parler avec vous. Et puis, Max Agnor est avec nous. Bonsoir, Max.
Bonsoir.
Vous êtes le président de The Collectionist. On va commencer par vous, Max, si vous le voulez bien. Fondé en 2014, qui est une très belle PME parisienne qui est spécialisée dans la location de maisons de luxe en France et à l'étranger. Voilà, The Collectionist, c'est un site déjà qui donne envie, hein, qui sent bon les vacances. Des vacances de luxe, on est d'accord, parce que vous vous occupez de trouver aux personnes qui le veulent, des villas de luxe à la location, c'est ça ?
Exactement, on opère sur une trentaine de destinations et on a un panier moyen de l'ordre de 28 000 euros pour 10 jours. Donc c'est clairement le segment très haut de gamme, luxe.
Un tout petit peu plus cher que camping.com. Hein,
un tout petit peu.
Un tout petit peu, ouais.
Et après, deux secteurs très différents.
Bien sûr.
Et de notre côté, on gère les opérations. Donc, on va trouver les maisons, on va sélectionner les maisons. Et on va mettre en place aussi les équipes sur place pour mettre tout le service de conciergerie. Donc, si vous voulez un chef, un prof de yoga, une voiture de location, on ne fait pas juste la maison. On va vraiment créer toute l'expérience de vacances.
Ça fait rêver, bien sûr, parce que ce sont des maisons d'exception, avec des panoramas incroyables, des piscines, des maisons que vous sélectionnez vous-même. Comment ça se passe, en fait ? Parce que j'imagine que ce sont des maisons quand même de standing, bien placées. Voilà, vous n'allez pas prendre un bungalow à la grande mode, forcément, non ?
Non, du tout.
Si j'ai rien contre les bungalows à la grande mode, c'est très sympa, mais c'est pas pareil.
Ça commence par les destinations, c'est-à-dire que vraiment, on fonctionne par groupement de destinations. Et sur une destination, on va trouver les premières maisons. Il y a un système de score par destination, parce qu'un chalet dans les Alpes et une maison au Cap Ferret ne va pas du tout se scorer de la même manière. Donc, on a un certain nombre de critères, on vérifie. Ensuite, on a un comité d'onboarding, donc on sélectionne les maisons. Tout le monde vote, c'est comme ça qu'on essaie.
Vous vous déplacez pour voir les maisons ou c'est simplement avec de la visio, des photos de la maison ?
Non, elles sont toutes inspectées. D'accord. Ça permet de faire une présélection, mais après on va aller dans toutes les maisons et on va aussi accompagner le propriétaire pour améliorer la maison, pour être sûr qu'elle soit bien sur le site.
Bankable en quelque sorte. C'est quoi les tips alors justement pour que la maison se loue encore mieux ? C'est la déco par exemple, c'est les équipements ?
Ouais,
qu'est-ce que recherchent des gens qui partent comme ça en vacances et qui sont prêts à mettre des fortunes pour 10 jours de vacances ?
Je pense pas qu'il y ait une maison bankable. Nous, à partir du moment où on a sélectionné la maison...
Plus séduisante, on va dire.
Exactement. À partir du moment où on a sélectionné la maison, quand on va accompagner le propriétaire, c'est plutôt d'être sûr que... De temps en temps, c'est des trucs assez, qui peuvent être même bêtes, mais il y a 5 chambres, il y a donc 10 personnes, il faut qu'il y ait le nombre de serviettes, la vaisselle, les équipements, l'appareil à raclette au ski. Enfin, c'est vraiment d'être sûr que la maison ne manque de rien.
Le barbecue au bord de la mer. Voilà.
Et aussi, en termes de stratégie de prix, d'être sûr qu'il est bien positionné, ça reste sa maison, c'est lui qui définit le prix. Et nous, on va l'accompagner pour définir le meilleur prix pour qu'elle soit bien louée.
Alors, vous avez fait votre entrée dans le French Tech 120 cette année.
Oui.
C'est plutôt une bonne nouvelle, qui est le programme d'accompagnement de l'État dédié aux entreprises françaises les plus performantes. Et vous embauchez pas mal, parce que, évidemment, le marché du luxe, paradoxalement, ces périodes un petit peu de tension fonctionnent bien. Le luxe marche toujours. Et vous recherchez plus de 120 postes.
Exactement. On a maintenant plutôt une centaine de postes ouverts. On a déjà commencé à recruter. On a beaucoup de chance d'être sur un segment très résilient face aux crises. Nos clients partiront en vacances dans tous les cas
cet été. Bien sûr.
Peut-être qu'ils reverront leur budget, mais ils partiront en vacances. Donc, on continue à embaucher sur à peu près tous les secteurs. On a un vrai business d'opération, donc ça peut être sur place. Mais on a aussi des équipes à Paris, notamment sur tout le développement technique. Ça peut être la tech, le marketing, la finance.
Alors, on le disait, le panier moyen, c'est 30 000 euros. Bon, déjà, ça donne un peu le tournis. Quelle est la maison qui coûte le plus cher à la location sur votre site ? C'est quoi ?
Il y en a pas mal qui se... Alors, ça dépend des destinations, il y en a pas mal qui se tirent un peu la bourre. mais on va avoir un chalet à Verbier qui est autour de 250 000 euros la semaine à Noël. Le plus souvent, il faut prendre les deux semaines, donc c'est un demi-million d'euros pour Noël, Nouvel An.
Ouais.
Et à Ibiza aussi.
Il y a une liste d'attente là ou pas ?
C'est pas vraiment des listes d'attente, c'est plutôt. Enfin, on a des clients récurrents qui vont.
Et qui sont prêts à mettre 500 000 euros pour deux semaines d'exception, dans des maisons d'exception. Parce qu'à 500 000 euros la maison, qu'est-ce qu'elle a cette maison ?
Elle est très grande. Il y a une dizaine de couchages. Il y a trois maisons dans la maison, c'est trois chalets. Hein, typiquement, là, c'est à Verbier. Va avoir une salle de poker, un bowling, un spa, une piscine. Et on a un chef étoilé dans la maison. Il y a aussi une cave à vin, enfin un sommelier à disposition. Donc, c'est vraiment une expérience de palace, en fait, dans une maison privée.
Vous restez avec nous, Max. On va maintenant s'intéresser à camping.com. Vous en êtes le président, hein, Jérôme. Oui. C'est étonnant parce que, évidemment, là, c'est l'exception. Vous, c'est le camping qui est la destination de vacances préférée des Français. On n'est pas du tout dans la même gamme de prix, mais vous apportez tout autant de bonheur, peut-être même plus, qui sait, on ne sait pas. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter camping.com, qui est un peu, si on schématise, le Airbnb du camping, quoi, en quelque sorte?
Oui, alors campings.com, c'est la plateforme européenne leader de la réservation de l'hôtellerie plein air. Oui. On a compté plus d'un million de vacanciers qui nous ont fait confiance l'année dernière pour réserver leurs vacances. Et on accompagne aujourd'hui 4500 établissements qui sont donc listés sur la plateforme et on les accompagne dans leur digitalisation.
Oui, donc c'est plus un booking.com, non, du camping qu'un Airbnb finalement.
Alors, c'est une offre professionnelle.
J'essaie de comprendre vraiment ce que...
C'est une offre professionnelle que l'on liste sur notre plateforme. Et on a donc une proposition de valeur qui est très claire pour à la fois les vacanciers, puisqu'on a un moteur de recherche qui permet de...
C'est ça. Je veux une semaine, je ne sais pas moi, en Corse, en camping. Exactement. Vous allez me proposer...
Ça rentre souvent par la destination.
Voilà, c'est ça.
Et on donne un moteur de recherche qui permet de filtrer parmi ces 4500 établissements. Et on permet de trouver, d'avoir une lecture assez claire de la richesse de l'hôtellerie de plein air, souvent des établissements à taille humaine avec un ADN qui est porté par leurs propriétaires. Et de l'autre côté, on accompagne donc les établissements dans leur digitalisation. Ils ont besoin de surexposer leur offre sur des carrefours d'audience et on fait ça, nous, avec notre distribution multicanale. On est capable d'exposer les offres de nos partenaires à la fois sur notre plateforme de commercialisation directe, mais au travers de 1200 comités d'entreprise et également en B2B. On travaille avec tous les réseaux d'agences de voyage, par exemple.
Voilà, c'est plus d'une centaine de collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, c'était en 2021. Ouais. On évoquait le luxe. Alors, il y a aussi du luxe dans le camping. Ça n'a rien à voir, bien évidemment. Mmh. Mais est-ce que, là aussi, il y a une espèce de montée en gamme vous êtes un observateur de ce marché-là. Est-ce que, petit à petit, on voit qu'il y a une montée en gamme concernant le camping, ou pas du tout?
L'hôtellerie de plein air se réinvente régulièrement, parce que ce sont des établissements, finalement, avec des structures assez légères. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements.
De la concurrence aussi, j'imagine.
Oui, une vraie concurrence avec différents types d'établissements. Bon, nous, ce qu'on sait faire, c'est les accompagner pour vendre les régions. On apporte différents services toujours pour donner une très bonne expérience client.
On parle beaucoup d'inflation. Est-ce que cet été 2023, ma semaine de vacances en camping va coûter plus cher qu'en 2022?
Alors, d'abord, l'hôtellerie plein air, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Si on regarde une semaine dans un camping le mois d'août, le 5 août par exemple, dans un 5 étoiles, la semaine va coûter 1 350 €. On est très très loin des paniers qu'on peut trouver sur le collectionniste.
C'est pas par personne, là, c'est ça?
Non, c'est pour hébergement.
Un hébergement pour une famille. 4 personnes, par exemple.
Exactement.
D'accord. Tout compris.
Alors, tout compris.
Enfin, hébergement compris.
Hébergement compris, avec l'ensemble des services qui sont attendus.
La piscine, les prestations.
Dans un camping.
Oui. Etc. Et ce prix augmente ou pas? Est-ce que vous voyez une augmentation rapport à l'année dernière?
Il y a une augmentation, notamment sur le mois d'août. On voit que finalement il y a une forte demande sur le mois d'août. Nous, ce que l'on essaye, c'est justement apporter à nos partenaires hébergeurs une clientèle pour les aider à améliorer leur performance et leur remplissage sur d'autres semaines, notamment sur les ailes de saison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a annoncé en début d'année l'acquisition de Bungalow Booker, la première plateforme de réservation dans les parcs de vacances aux Pays-Bas. On sait que la clientèle néerlandaise et allemande, finalement, on représentait 16% de la clientèle dans les campings français. Voilà, c'est important de pouvoir les accompagner et leur permettre de toucher différents bassins d'audience.
Merci beaucoup, Jérôme Mercier, président du groupe camping.com, et merci à Max Anier, donc président du collectionniste. Merci à tous les deux.
Merci.
C'était notre rendez-vous French Tech pour nous faire rêver un peu. Ça fait du bien. Ce Tech & Co est terminé en ce mardi soir. Merci de nous avoir suivis. Toujours un plaisir que de vous accompagner chaque soir sur BFM Business pour Tech & Co. On sera là, bien sûr, demain soir, mercredi, 20h, 22h, à la radio, à la télé. Je compte sur vous. À demain. Très belle soirée.